Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme. Une émission exceptionnelle aujourd'hui, oui, on a plein d'infos, on va refaire le football comme tous les jours, mais encore plus que d'habitude. Voilà, on a décidé de mettre les bouchées doubles aujourd'hui. Alors déjà parce qu'on a un casting de rêve à commencer par Jean-Louis Tour. Salut Jean-Louis.
Salut Jérôme, salut tout le monde.
Ouais, ça va?
Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, un vrai casting athlète. De rêve comme tous les soirs.
Un vrai athlète, là. Là
on sent l'été. En train de m'affûter là.
Ouais. Mais pas trop serré quand même, hein. Les t-shirts.
Ah, ils sont tous trop larges maintenant.
Il y en a un qui est de moins en moins affûté et je suis étonné, hein, quand même, c'est Manu Petit. Salut Manu.
Tu rigoles quoi?
Il a pris un peu, mais bon, ah ouais, écoute, ses voyages en Thaïlande, en Angleterre. C'est demain, pardon. Voilà,
ouais. Mais Manu, il bouge pas.
Non.
Il a une époque compliquée.
Ça, il bouge pas.
Je suis bien là.
Ouais. Non, t'as pris un peu.
Je rentre dans des jeans que je rentrais plus.
Je t'ai vu. Mais bon, c'est pas grave, va partir.
Non, mais il y a pas de souci.
Il y en a un qui a pas pris un gramme. Et lui est vieilli, mais il prend pas un gramme. Il prend même pas d'âge. C'est Jean-Michel Larqué.
Toi aussi, tu vieillis. Salut, toi aussi, tu vieillis.
Ah bah oui, moi je vieillis, ça c'est vrai.
Nous, hein, de 24 heures tous les jours à peu près, c'est grosso modo. Non, moi je suis une épée. Je ne suis qu'un seul muscle.
Non, mais toi t'es parfait. Ouais, c'est pour ça.
Messieurs, ce soir. Roten ne fait pas que des lipettes, Roten s'enflamme sur les 30 ans de la victoire de l'OM en Ligue des Champions. C'est vendredi, l'anniversaire officiel, mais ça va nous donner l'occasion de débattre. Êtes-vous nostalgique des présidents à la Bernard Tapie? 32-16, appelez-nous pour participer au débat, ce sera tout à l'heure à 19h. À 18h30, le projet Ineos à Nice, ce sera l'accusé du soir, accusé d'être une arnaque, une fraude, puisque l'OGC Nice n'a toujours pas décollé depuis 3 ans que les dirigeants d'Ineos sont présents au club.
Culotté, celui qui l'a accusé.
Moi, bon, je suis pas sûr. À 18h45, le casar enchaîné.
Il y en a qui sont déculottés.
Il nous fait une grosse semaine.
Vous êtes culottés.
D'ailleurs, dès que vous avez 2 secondes, faites-vous les podcasts des casars enchaînés de ce début de semaine, notamment hier, la discussion Neymar-Vinicius, magnifique. Aujourd'hui, la négociation entre Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaifi, parce que justement, le feuilleton est de retour. Presse.
Salut Kylian.
Salut.
C'est un odeur pour moi. Tu fais partie des meilleurs de la galaxie foot aujourd'hui et ça c'est bien. Ça c'est bien, Kylian, bravo. Non, tu vois pas les choses comme ça, mais t'as raison. Heureusement que t'es là, hein. ne parle pas, Kylian, on va s'emmerder. Là. Faut respecter juste l'homme et en tout cas, voilà, t'es une bonne personne et puis on se reverra pour soulever la Ligue des Champions alors.
Cette prévision là.
Les choux.
C'est pas qui était le chat noir sur le coup là, mais c'est lui ou moi. Parce que franchement.
C'est vrai.
Bah, alors, on embrasse Elsa par contre.
Ce matin, nos confrères de l'équipe ont rappelé la situation contractuelle de Kylian Mbappé à Paris. De quoi nous remettre en tête que son cas peut poser question très rapidement. On rappelle qu'il est libre en 2024 s'il décide de ne pas lever cette fameuse option cette année supplémentaire. Alors, cette situation peut-elle poser problème? 32-16, appelez-nous pour en débattre. Arthur Perrault nous rejoint, lui qui suit le PSG au quotidien. Salut Arthur.
Salut, monsieur, bonsoir. Salut, Arthur.
Ne pas lever l'option d'un an supplémentaire, c'est pas la tendance, hein.
Oui,
Kylian Mbappé a la tendance de ne pas lever l'option.
Exactement, Kylian Mbappé qui met l'impression sur les dirigeants parisiens avec ce refus. L'attaquant ouvre la porte à un départ libre du PSG en 2024. Le champion du monde reste très déçu par le dernier marché des transferts raté l'été dernier, par une prime non versée à temps en début de saison. Mais rien ne l'empêche aussi de renouveler son bail à n'importe quel moment à Paris. Personne n'imagine la saison prochaine sans son joueur star. Une source interne explique qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Selon elle, Mbappé serait quand même satisfait de la direction que prend le club, qui veut toujours en faire son leader. Une chose est sûre, le Real Madrid sera une nouvelle fois à l'affût pour le faire venir. Manchester United devrait aussi être attentif à l'évolution du dossier. La nouvelle saison de la série Kylian Mbappé promet encore de nombreux épisodes.
Alors, tout va pour le mieux ou est-ce qu'il peut y avoir un petit problème dans cette situation? Est-ce qu'on est reparti pour un feuilleton autour de Kylian Mbappé, Jérôme?
Des feuilletons avec les grands joueurs, il y en a tout le temps, hein, Jean-Louis. Et après, merci des infos d'Arthur, mais il y a des choses qui me laissent un peu perplexe. Déjà, le fait que il soit pas content de plusieurs choses, mais que les dirigeants, du moins des sources internes, disent oui, mais il est satisfait du projet. Non, il peut pas être satisfait du projet.
Sinon, il aurait levé l'option.
Déjà, et puis même, il y a pas de motif de satisfaction, Jean-Louis. Donc il faut arrêter d'essayer de défendre absolument le club sous prétexte que Kylian est content. Non, il doit pas être content comme la plupart des joueurs de tous les cas. cas ceux qui se sentent investis d'une certaine mission au Paris Saint-Germain, ils sont déçus aujourd'hui. Et de toute façon, ça se voit dans leurs attitudes, dans leur body language. C'est clair et net, c'est comme ça. Après, moi, j'ai envie de te dire, il y a deux choses qui peuvent être problématiques. Le fait que, en effet, il soit persuadé et qu'il lance ce message-là aux dirigeants en disant « Moi, je ne lèverai pas l'option. » Donc, les dirigeants, ils n'ont pas le choix. S'ils veulent retomber sur leurs pieds, il faut le vendre tout de suite. Voilà, parce qu'il ne lèvera pas l'option, il va partir libre sinon. Soit, la deuxième chose, c'est que Kylian, aujourd'hui, c'est une façon de remettre une pression sur les objectifs du club et ce qu'il voulait mettre en place pour les changements et qui n'a pas forcément eu lieu ou qui vont pas assez vite à son goût, et il a totalement raison là-dessus. Et que dans ces cas-là, c'est une pression particulière, il fera l'année prochaine et puis après il y aura le temps de voir les choses durant l'année. Rappelle-toi d'une chose, et là je donne la parole à Manu et à Jean-Michel, il faut faire attention avec lui, parce que il y a 2 ans, quand il a prolongé, si on avait parlé à cette période-là, et ça avait été le cas, il voulait partir. Mmh, et il l'avait exactement. Même annoncé au mois de juillet, au mois d'août. Et à l'arrivée, il est resté, il a prolongé, et puis voilà. Donc, piano, quoi. Il faut faire attention. On sait pas l'année prochaine le recrutement, comment le club repartira sur d'autres objectifs, avec une façon de jouer peut-être différente, avec un chef d'orchestre différent. Et peut-être que là, l'ambiance dans le vestiaire va changer, que ça va le satisfaire, et que peut-être il ira jusqu'à la durée. Parce que moi, il y a une chose, et ça, il a jamais triché là-dessus, et je l'ai toujours défendu, et je le défendrai toujours. C'est que il y a le côté financier, ok, parce que c'est un grand joueur et tout, pas de problème, mais il y a aussi le fait qu'il soit attaché à ce club, et ça c'est vraiment la réalité, quoi.
Manu, qu'est-ce que tu penses de ce que dit Jérôme, t'es d'accord?
Ouais, enfin moi j'attends toujours de voir en fait c'est quoi le vrai projet du Paris Saint-Germain, hormis justement de créer davantage de boutiques à travers le monde. Donc je veux bien qu'on essaye d'amener des garanties à Kylian Mbappé pour qu'il reste et éventuellement lever cette dernière option. Et puis encore une fois, la date butoir, moi ça me fait un peu rigoler, parce que à tout moment on peut le repousser, et puis à tout moment il peut y avoir une surprise aussi. Donc ce qui est écrit sur un contrat, ça peut très bien être mis en question rapidement. Donc c'est moi en fait
y a... ça oui, en fait la question c'est, est-ce que avoir le meilleur joueur, la tête d'affiche du projet à un an de la fin de son contrat, est-ce que ça peut poser un problème quelque part?
Bien sûr que ça pose un problème quelque part, parce que si tu laisses partir Messi et Neymar, je veux dire, et laisser justement et construire, c'était pas le projet qu'on m'a vendu l'année dernière, construire justement le futur du Paris Saint-Germain autour de Kylian Mbappé. Donc moi, je pense que Kylian Mbappé aujourd'hui, il attend des signaux forts sur le mercato qui va arriver. Là, c'est les semaines qui vont arriver, ils vont être capitales justement pour essayer de convaincre Kylian Mbappé. Rappelez-vous ces déclarations l'année dernière, c'était fin août, où il avait dit après un match, de toute manière, on va faire le maximum en Champions League. D'un air de dire qu'il avait déjà tiré le constat d'un échec. Il avait anticipé justement l'échec de son équipe en phase de Champions League. Donc quelque part, je me dis. Quand je vois les 8 prêts qui doivent revenir au Paris Saint-Germain, quand je vois aujourd'hui toutes les incertitudes concernant l'entraîneur, concernant les joueurs qui vont rester, ceux qui vont partir, ceux qui vont éventuellement arriver, je suis Kylian Mbappé, moi, les 4-5 semaines qui vont arriver vont être déterminantes si oui, le projet m'intéresse et si oui, je veux continuer à être au cœur de ce projet.
Et donc ça veut dire quand même que dans un an, tu peux te retrouver sans Messi, sans Neymar, voilà, et sans Kylian exactement. Mbappé s'il n'a pas été convaincu, capitaine. Oui.
Tremble carcasse, tremble, parce que je pense que du côté du Paris Saint-Germain, tout va bien. Kylian est pas content, mais il est satisfait. Je sais pas lequel il faut comprendre, hein, parce que il est pas content, mais il est satisfait. Bon, c'est la communication bizarroïde. Et puis il y a aussi, et vous l'avez d'ores et déjà évoqué, d'abord cette option sur l'année supplémentaire. Il peut très bien la lever l'année prochaine, à cette époque de l'année. On sait jamais.
Non, c'est jusqu'au 31 juillet.
C'est juillet, exactement.
Là, il a jusqu'au 31 juillet pour lever cette option.
Ah, il a jusqu'au 31 juillet,
oui.
Là.
Oui, oui. Mais en revanche, entre le 31 après, juillet oui. et l'année d'après, oui. il peut négocier un nouveau contrat.
C'est
en
vrai, bien sûr. Oui, enfin,
donc, ça veut plus des écritures.
Tant qu'il est au Paris Saint-Germain, pour l'instant, il n'est pas ailleurs. Mais imaginez, ça c'est une lapalissade, mais imaginez quand même que dans le même temps, ou à un an d'intervalle, il y ait le départ de Neymar, donc le retour sur investissement du transfert de Neymar, même s'il aura joué pendant X années,
6 années.
Enfin, il aura pris aussi son salaire, il y a le salaire à rester, donc entre l'investissement sur Kylian Mbappé, qui aura joué et marqué beaucoup de buts durant X années également, à la fin de la saison prochaine, ils peuvent s'asseoir peut-être sur 400 millions d'euros, non ? Qu'ils auront dépensé il y a 4 ans, exactement, avec un retour sur investissement égal à zéro.
Ouais.
Et peut-être même que pour faire partir, pour souhaiter le départ de Neymar, il n'est pas exclu qu'il participe un tout petit peu à son contrat ou à son salaire,
oui,
à là son, où il sera.
Oui, ou pré-éventuel,
donc,
oui.
Donc aujourd'hui, la situation du Paris Saint-Germain, elle est très très compliquée. Mmh. Vous avez aussi parlé.
Bah alors attends, Jean-Michel, dans ces cas-là, Jean-Michel, il ne faut pas envisager la possibilité de le vendre cet été.
Non, parce que
avec ce que tu dis sur la balance déficitaire, etc.
Non, mais pour
se retrouver dans un an sans personne.
Non, mais pour répondre à Jean-Michel et même à vous, on voit les choses clairement. Ils ont beaucoup, beaucoup d'argent. Ils en font pas une histoire d'argent. Parce que s'ils en faisaient une histoire d'argent, cette chose-là, non, en effet, il y aurait un retour sur investissement. Ils se poseraient la question aujourd'hui de vendre. Mais c'est de l'argent. Attention, j'aime pas parler comme ça.
Je parlais pas de leur possibilité financière. Il y a quand même un gendarme financier qui chaque fois est sur le rable quand même.
Oui, mais ça tous change quoi ans, là? Si tu le perds, Kylian Mbappé, le gendarme financier, ça te change quoi? Si tu le perds pour zéro, Jean-Michel?
Ah ben j'imagine que peut-être que dans les actifs du club, ils ont peut-être mis dans les actifs, je n'en sais rien, peut-être que dans les actifs du club, ils ont mis un Kylian Mbappé avec un éventuel transfert. Qui te dit?
Ah oui, non, mais ça je ne peux pas le savoir, et peut-être que tu as raison, mais moi, je pars du principe.
En tout cas, la situation pour le Paris Saint-Germain est extrêmement compliquée.
Ils n'ont pas la main.
Et c'est pour ça, et le PSG n'a pas la main, mais encore une fois, et c'est problématique, hein, dans la gestion de ce club, avec tous les problèmes
qu'on. Mais ça t'étonne, toi, dans la gestion de ce club?
Non, mais ce qui m'étonne, c'est de.
Qui est responsable, encore une fois, de ça?
Mais Manu, les
fiascos à répétition,
ça marche sur
les nouveaux contrats actuels. Bah, excuse-moi, quand tu laisses la main à ton meilleur joueur de pouvoir diviser son avenir, ça c'est problématique.
Manu, le club aurait la main. Manu, le club aurait la main s'il s'était comporté normalement et s'il avait fait des progrès au cours des dernières années.
Mais attends, Jean-Michel, pourquoi Jérôme, tu me dis non à. Plan, il est sur un an. Mbappé, il a un contrat pendant un an.
Tous les deux ans, on va voir la même
Macarra qu'il soit convaincu du nouveau projet.
Ça fait 6 ans qu'il est là.
Mais on l'oublie un peu. Sur l'avenir, Jérôme. Quelle est la perspective pour l'avenir qui vient?
Mais quand t'as un tel joueur, et c'est bon pour n'importe quel autre club, les grands clubs européens aussi. Quand t'as un joueur, regarde le cas. Alors c'est pas ils sont pas sur la même planète, je pense. Mais c'est un grand joueur. Le cas de Bernardo Silva. Ouais. On en a parlé. Ça fait 7 ans. Il veut partir.
Oui.
Il part pas parce que le club.
Non, mais donc attends, Jérôme. Là, tu vas construire l'équipe du PSG autour de Kylian Mbappé. Non, mais il ne reste qu'un an de contrat.
Tu l'as construit encore une fois. Je pense que l'équipe avec Kylian Mbappé, tu l'as construit depuis 4 ans. Plutôt que depuis un an et sa prolongation de contrat. Vous êtes d'accord avec ça? Après, il y a.
Je sais pas, moi.
Tu l'as détruit, tu l'as pas construit.
Il a prolongé.
Le club n'est pas en progrès, quand même.
S'il n'est pas allé au Real Madrid, Jérôme, c'est parce qu'il a peut-être reçu des garanties sur le plan sportif de construire un projet autour de lui.
On est d'accord.
Aujourd'hui, c'est un fiasco.
On est d'accord. Mais on est d'accord.
Mais la question de savoir aujourd'hui qui est dans le pétrin, si c'est Kylian Mbappé. Moi, je suis à la place de Kylian Mbappé, je suis dans du velours.
Mais moi, je suis d'accord avec toi, Manu, mais pour répondre à Jean-Louis, c'est que il y avait un projet il y a 6 ans avec lui. Après, ça a évolué parce qu'il a pris une place plus importante quand il est devenu champion du monde, d'accord. Donc, c'est un projet à 4 ans, 5 ans avec lui. Il a prolongé l'année dernière. Là, t'es reparti sur un nouveau cycle en lui amenant des garanties, comme tu dis, sportives en disant on va changer la politique et on part sur un cycle de 2 voire 3 ans.
C'est pire qu'avant.
C'est ça. Sur la première année, le problème et ça, c'est le club, c'est de la faute du club, des dirigeants, de ce qu'ils ont mis en place. Là, le club n'a pas avancé, au contraire, il a même reculé. Donc, ils ont encore perdu un an. Mais tout ça pour dire qu'il leur reste un an pour donner des garanties différentes au meilleur joueur du monde.
Mais
il faut aussi préparer le fait que Kylian Mbappé, dans un club qu'il est là depuis 6-7 ans, il a le droit aussi d'aller voir ailleurs.
Et
même si le projet est bien.
Je parle des dirigeants parisiens qui n'ont aucune vision et aucun cap de fixer.
On y vient, Jérôme.
La question que le PSG doit se poser, est-ce que Kylian Mbappé veut rester, tout simplement?
Aujourd'hui, il veut rester. Moi, je
pense qu'il veut rester.
Moi, je
pars du
après ce qui s'est passé.
Non, Jérôme,
mais les promesses qu'on lui a faites.
Mais la réponse est non. Sinon, il aurait levé l'option. Sinon, il aurait négocié un nouveau contrat. Sinon, il aurait signé 4 ans. Ils auraient signé un contrat là.
C'est logique.
Non, mais parce que là, on part.
Et tu me dis, c'est son club de cœur. Il n'aurait pas hésité un seul instant s'il avait des garanties.
Les gars, moi, je suis personne pour parler de son contrat. Personne peut se mettre à sa place. Là, on parle de contrats incroyables au niveau financier. Il y a des garanties amenées par les Qataris quand ils lui ont donné autant d'argent. Donc, je pars du principe que les deux ans, il va les faire.
On revient à l'argent, on n'en revient pas au sportif.
Mais
les garanties que veut Kylian, c'est au niveau financier, qu'il reste au PSG.
Non,
alors.
Ils lui ont donné. Ils ont essayé de lui amener.
S'il veut gagner des titres, je ne suis pas certain que ce soit la bonne solution.
Ils ont essayé de lui amener des garanties en disant le vestiaire va changer, l'institution va changer, va reprendre le dessus.
Ce sont des paroles.
Oui, c'est vrai, et ça ne se vérifie pas. Ça
c'est
juste vérifié.
C'est philharmonique de Vienne, non. Ça.
C'est pas du pipeau. Dans les actes, ils ont changé les hommes à la tête du sportif l'année dernière. Donc ils ont reconstruit quelque chose de différent. Ils ont détruit pour reconstruire. Aujourd'hui, le problème, c'est que depuis un an, ça va pas assez vite.
Si tu pars du principe qu'ils ont détruit pour reconstruire, moi je vais demander à un architecte de reconstruire ma maison et de faire des étages n'importe comment, une tour là-bas.
Je veux pas le même architecte.
On va continuer le débat dans une seconde.
Manu et Jean-Michel, reconnaissez quand même qu'ils ont changé les hommes à la tête du sportif.
Jérôme, dans les hommes qui ont changé. Dans les hommes qui ont changé, Jérôme.
Pardon, Jean-Michel, je te redonne la parole dans une seconde. Parce que quand on essaie de lancer la pub et que vous continuez de rajouter des mots. Personne n'écoute ce que vous dites. Donc c'est dommage, c'est gâché. Vous allez le refaire dans une seconde tranquillement et on donnera la parole à Damien au 32-16. Mbappé sans flamme, libre dans un an. Est-ce que ça pose un problème quelque part? À tout de suite.
RMC 18h20, Roten sans flamme.
Jean-Louis
Tour,
Jérôme Roten.
18h18 sur RMC, toujours dans Roten sans flamme. On continue nos débats dans Roten sans flamme avec Jean-Louis Tour, avec Manu Petit et avec Jean-Michel Larquet. C'est chaud sur le plateau, et oui. Et c'est ce qu'on aime, Jean-Louis.
Exactement. Doit-on parler de fraude sur le projet Ineos? Les dirigeants sont là depuis 3 ans.
On va encore se chauffer. Hein.
Est-ce que ça va vraiment partir à un moment ou est-ce que pour l'instant il n'y a rien? On fait entrer les accusés tout à l'heure à 18h30. On est sur le PSG. Mbappé libre en 2024, donc il est à un an de la fin de son contrat. Est-ce que ça pose un problème dans la politique sportive du club? Damien nous rejoint, Jérôme, au 32-16.
Salut Damien.
Salut Jérôme, salut Jean-Louis.
Bienvenue Damien.
Jean-Michel et Manu.
Salut Damien. Bon, qu'est-ce que tu en penses?
Pour commencer d'abord, messieurs, je vous avais annoncé il y a quelques semaines qu'on était en finale de Coupe Aubois du District Ouest de football avec mon club.
Oui.
Et forcément, on a gagné. Et
félicitations.
Féliciter toute l'étoile sportive hors moi du vie pour cette belle victoire dans cette coupe.
Bravo,
les gars.
Bravo.
Merci.
Ça devait pas être bien dur à gagner celle-là. Vas-y.
Non, je plaisante. Je plaisante. Aux adversaires, les pauvres.
Allez, vous avez affronté qui? Des charpentiers?
Des menuisiers, ouais.
Ah, d'accord. Bon, justement, il change les menuisiers à Paris.
Ne te fais pas plus méprisanter, okay. Jérôme. Okay. Tu le penses même pas.
Exactement. Qu'est-ce que tu penses de Kylian?
Kylian, forcément, c'est un problème pour le PSG parce que on est reparti sur est-ce qu'il prolongera, est-ce qu'il prolongera pas. Ça va créer un battage médiatique autour de cette histoire. Ça commence déjà. Mais pour moi, il faut le prendre comme une opportunité. De nouveau, comme tu l'as dit, le projet il n'est pas bien parti cette année. Que forcément, Kylian, il a des doutes par rapport à ce qui lui a été proposé l'année dernière. Et sinon, il aurait déjà prolongé. Il aurait déjà levé cette option. Or, là, il ne l'a pas fait. Donc, ça montre qu'il n'est pas en total accord avec ce qui se passe au club. Donc, il faut vraiment qu'il travaille bien. Il faut prendre ça comme une opportunité de vraiment faire un bon mercato, de construire vraiment l'équipe autour de lui et non pas une équipe bancale et déséquilibrée comme on a pu le voir cette année. Je pense que Kylian, il n'a pas pris de plaisir en jouant cette année au PSG. Que s'il n'y avait pas Kylian cette année au PSG, on n'aurait pas fait la saison qu'on a fait.
Ah non, ça, c'est sûr.
Très clairement. Et il a envie de gagner avec des champions, il a envie de gagner des titres avec Paris. Et je pense que lui-même, il doit être déçu, parce qu'on le voit dans son attitude. Contre Auxerre, il marque 2 buts, on voit qu'il est largement au-dessus, puis d'un coup, c'est plus le même joueur. Il joue pour ses stats actuellement. Mmh. Et on sent pas qu'il prend du plaisir sur le terrain, et nous, on prend pas de plaisir en les regardant jouer. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est tout ce que les supporters du PSG ils ont envie, c'est tout ce que le club a envie. Et donc moi, je dis que Kylian, il a raison de mettre cette pression sur le club, même si ça va être un problème à gérer. Effectivement, c'est un très gros problème à gérer pour le PSG, que ce soit médiatiquement, que ce soit sportivement et que ce soit administrativement.
Oui, mais c'est un bon problème à gérer. Parce que à l'arrivée, le PSG doit être satisfait quand même du fait de l'avoir gardé, réussi à le garder, alors que c'était quasiment une cause perdue quelques mois avant. Donc ça, c'est la réalité, elle est là. Après, comme tu l'as dit, l'équipe autour de lui, oui, bah de toute façon, une équipe, elle se forme toujours autour des grands joueurs. Donc lui est un grand joueur, donc automatiquement, ils vont essayer de faire en sorte qu'il se sente le mieux possible dans cette équipe.
Comment ils vont faire ça, Jérôme ?
Je sais pas.
En tirant Messi, déjà, tu enlèves.
Et les 8 joueurs qui reviennent en prêt, tu fais quoi avec ?
Ouais, c'est compliqué, mais t'as raison.
Jérôme, Jean-Michel. Quand même, je te trouve très optimiste.
Mais oui.
Le problème, il est facile à régler. Moi, quand j'avais un problème, quand j'avais l'énoncé du problème, il était facile à régler si j'avais la bonne solution. D'accord ? Aujourd'hui, non seulement l'énoncé du problème, il est très compliqué pour le Paris Saint-Germain, et ils ont prouvé qu'ils étaient incapables de le régler. Incapable. Ben, jusqu'à présent, c'était incapable. Et quand tu as alors, je sais que tu ne portais pas le précédent Leonardo dans ton cœur.
Bah, autant les premières années, oui, ça c'est sûr, je le portais dans mon cœur parce que je trouve.
Quand tu as un directeur sportif qui arrive en bombant le torse et en disant, vous allez voir, tout va changer, on l'a dit ça, et au mois de juillet dernier, ça va changer ça va changer, et que le seul discours que j'ai retenu moi de Campos cette année, c'est quand même terrible quand tu es joueur du Paris Saint-Germain, c'est Campos qui te dit, on a manqué le mercato d'été, et quelques mois après, il te dit, on a manqué le mercato d'hiver. Donc, si tu veux, quand un directeur sportif qui a une tête de vainqueur comme ça, tu te dis que ça risque d'être compliqué quand même.
Oui, non, mais c'est pas. Franchement, Jean-Michel.
Honnêtement, c'est vrai ou pas vrai ?
Non, mais.
Directeur sportif.
Non, mais tu as raison.
On a été nul pour le mercato d'été.
Oui, et nul au mercato d'hiver. Et parce qu'il n'avait pas d'argent. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais moi, encore une fois, je ne dis pas que c'est facile de trouver un projet cohérent au PSG.
Le problème était facile à régler.
Non, le problème, il est facile à régler pour Mbappé.
Pour Mbappé.
Oui. Oui, pour Mbappé, il est facile à régler.
Donc, c'est inquiétant pour le PSG.
Mais en fait, c'est inquiétant aujourd'hui. Et je te dis pas que moi, je suis optimiste sur les prochains mois, les prochaines semaines du PSG, parce que j'échange souvent avec eux. Et un jour ils te disent blanc, un autre jour ils te disent noir. Après, on revient à un projet où il faut mettre un peu plus de joueurs français. À l'arrivée, j'attends de voir les joueurs français qui vont arriver. Après, comme tu l'as dit, Manu, t'as les prêts qui vont revenir. Il va falloir les faire partir. Alors, encore une fois, l'aspect financier, c'est pas un problème pour les Qataris. Donc, s'ils décident de faire des chèques, de résilier les contrats, tant mieux pour eux. Bon, ils auront perdu un tas d'oseilles, mais tant mieux pour eux. Mais je suis pas sûr que.
Tu penses que les joueurs qui vont venir, ça va être gratuit ?
C'est ça. Le problème, c'est que
à la fois au niveau des transferts, mais également sur le
en fait, ce qui me fait peur, c'est que tous les noms, et on a fait des débats là-dessus sur Bernardo Silva, sur d'autres, tous les noms que t'entends, c'est toujours la même rengaine au PSG. Mmh. C'est des grands noms qui ont marqué les clubs étrangers, et sous prétexte que c'est les meilleurs dans leur club ou ils font partie des meilleurs joueurs au monde, donc ils intéressent le PSG. Pour moi, tu construis pas un club comme ça, tu construis pas un collectif comme ça.
Je suis sûr que directeur sportif, tu serais meilleur que Campos, Jérôme.
Mais je suis d'accord avec toi.
Et tout ce qui
c'est très facile, ça. On peut tous le faire, ça.
Ah oui, ça c'est très compliqué.
Mais c'est vrai. Et après, il faut avoir des bonnes idées, une bonne vision des choses pour analyser la situation PSG. Et je pense que ça, et c'est pour ça que j'ai des doutes aujourd'hui. Je pense que l'analyse globale, le mal-être du PSG, ils en ont pas conscience.
Moi, j'ai une question à te poser, Jérôme.
Oui.
En tant qu'ancien du PSG, par rapport à tout ce que tu vois depuis des années, imaginons. Par rapport à la situation contractuelle de Kylian Mbappé, que dans un an, il ne soit plus au PSG.
Ouais. Vas-y.
Qu'est-ce qui se passe ?
Manu, enlève ton casque et vas-y, continue.
Imaginons que Kylian, dans un an, il s'en aille.
Ouais.
C'est quoi le projet du Paris Saint-Germain ?
C'est dramatique.
C'est un risque majeur à l'heure actuelle.
C'est vrai, Manu.
Pour ça que je te dis, les 6 prochaines semaines, ils vont jouer gros le Paris Saint-Germain.
C'est pour ça que je te dis juste, et on va finir là-dessus, je te dis juste que
entouré de joueurs importants pour que Kylian brille, ça me paraît logique. Dans tous les clubs,
c'est surtout une équipe cohérente que je vois.
Mais non, mais ouais, dans tous les clubs on est passé, il y avait des grands joueurs et automatiquement ces grands joueurs-là sont indispensables dans une équipe.
Il y avait
mais
des bons soldats aussi. Il y avait des bons soldats, Jérôme.
Non, mais l'essentiel, je vais te dire, c'est pas les têtes d'affiche, c'est pas les grands joueurs, c'est les soldats. C'est les soldats. Ouais. Comment ils se transcendent entre eux, comment
après,
ils, ça ils dégagent.
Tête d'affiche, ça peut être problématique aussi.
Mais au PSG avec les moyens, Jean-Louis, il y en aura toujours. Il y en aura, mais si, il y en aura toujours parce
j'attends
que
de voir.
Ils ont aussi, plus de moyens de qu'ailleurs. Mais il faut pas être le petit pigeon à surpayer certains joueurs et surtout à faire juste un un recrutement de stars.
Qui vont profiter
parce que
de la situation,
quand tu me parles de
faire cracher le PSG,
quand tu me parles d'Osimhen, tu me parles de Bernardo Silva, tu me parles d'entraîneurs Nagelsmann et tout ça, je trouve que quand ils t'amènent ça sur en disant c'est des priorités, là ils ont tout faux.
Allez,
c'est qu'ils ont rien compris.
On arrête là. On remercie Damien.
RMC, 18h20, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h31 sur RMC, toujours dans Roten sans flamme. La deuxième demi-heure de Roten sans flamme du soir avec Manu Petit, avec Jean-Michel Larquet, avec Jean-Louis Tour. Dans 10 minutes, ratez pas le moment de Julien Cazard. Il est en grande, grande forme et là, je crois qu'il a eu une discussion.
Entre Neymar, Neymar, c'était hier, entre Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi.
Ah ouais.
Donc soyez là, 18h45.
Coup, hein. Il bosse.
Ouais, il est solide.
Ouais.
Peut-être un peu plus solide que le projet Ineos.
Bon. RMC, Roten sans flamme.
Silence dans la salle. Qui sont ces hommes?
Ah, ouh, ah non, mais donc le jour
où les matchs, le
jour.
Oh, j'en ai trop.
Faites entrer l'accusé.
Qu'est-ce qu'il y a? Je suis un peu orienté dans ma façon de présenter les
orienté,
choses.
C'est voilà.
Moi, je pose le débat. Le dossier du soir.
C'est vraiment un sale titre.
D'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai amené, c'est Dante, le capitaine niçois, qui amène cette pièce à conviction après le nul de Nice contre Toulouse.
Faut qu'on fasse une équipe assez forte. Au plus vite possible pour bien démarrer la saison. Cette saison, on le sait très bien, le dernier jour du mercato, il y a 6-7 joueurs qui partent, il y a 6 qui arrivent. C'est compliqué. Il faut simplement pas faire les mêmes erreurs.
Alors, ne pas faire les mêmes erreurs, faire un mercato ambitieux, c'est une rengaine qu'on entend régulièrement depuis l'arrivée d'Ineos, les Anglais qui bouclent leur troisième saison à la tête de l'OGC Nice. Et la progression ne saute pas aux yeux. Hein. Alors le projet Ineos est accusé d'être une fraude, une arnaque, utilisez le mot que vous voulez. L'accusation est menée par le procureur Jean-Michel Larquet. Bonsoir monsieur le procureur.
Bonsoir messieurs.
Et comme dans chacun de nos débats, de nos faites entrer l'accusé, dans Roten sans flamme, il y a les deux parties qui sont représentées, l'avocat des dirigeants, c'est maître Jérôme Roten. Bonsoir maître.
Hello.
Vous êtes tendu j'ai l'impression.
Non,
vous n'avez pas l'air confiant. Le juge qui va nous trancher l'affaire, c'est le juge... Manu Petit, bonsoir.
Bonsoir, messieurs.
Alors, allons-y, monsieur le procureur Larquet.
Hello, guys.
Qu'est-ce que vous reprochez aux dirigeants niçois?
Il y a une formule qui est très simple, qui dit que les gens ne sont pas ce qu'ils disent, ils sont ce qu'ils font. Et c'est vrai qu'Ineos nous a bassinés en début de règne, là, lorsqu'ils sont arrivés, en nous disant « vous allez voir ce que vous allez voir ». Nous sommes des winners et l'OGC Nice va être une des bonnes et grandes surprises sur la scène française et peut-être même sur la scène internationale. Depuis, il y a eu valse des entraîneurs, valse des directeurs sportifs, valse des directeurs administratifs. Et je suis très étonné. Je suis très étonné de ça parce que Dante l'a parfaitement résumé. Quand on a des ambitions, je ne sais pas si c'est le cas dans les grands clubs, mais je regardais, par exemple, en début de saison, les quatre joueurs offensifs s'appelaient Laborde, Guiri, Stenz, et celui qui est parti à Nantes.
Delors.
Et Delors. Sur les quatre joueurs offensifs...
Il vient de bosser.
Il y en a trois qui sont partis en tout début de saison. Évidemment, impossible, comme le dit Dante, d'avoir une quelconque ambition, d'avoir une ligne directrice. Et ça m'étonne d'autant plus, de la part d'Ineos, que dans les autres domaines, ils sont, quand ils le veulent, quand ils en ont la volonté, ils sont véritablement pointus. Que ce soit dans le vélo, que ce soit dans la voile, ce sont des gens qui... lorsqu'ils investissent, ne font pas les choses à moitié. Mmh. Et là, on les sent toujours un petit peu sur la retenue. On les sent d'autant plus que sur la retenue qu'ils courent plusieurs lièvres à la fois. Et nous avons donc l'OGC Nice, avec parfois des recrutements quelque peu folkloriques. Notamment celui du numéro 1 de Schmeichel, par exemple.
Qui a fait une bonne deuxième partie de saison, quand même.
Qui a fait une bonne partie de
par rapport à sa première saison.
Et oui, qui était vraiment très mauvaise, donc ouais. Il était en amélioration par rapport à du très mauvais, il a été moyen. Et pour les Niçois, aujourd'hui, quand on est en même temps intéressé un petit peu par l'OGC Nice et beaucoup par Manchester United, on comprend très bien que l'on ne concentre pas tous ses efforts sur l'OGC Nice. Enfin, on le comprend bien. Eux nous disent qu'ils font tout pour l'OGC Nice, mais en fait, ils ne le font pas parce qu'ils ont d'autres vues, d'autres challenges à relever. Et donc, j'attends avec impatience le projet Ineos. En tout cas, sur le factuel, ils ont échoué. Sur le factuel, ils ont raconté des bobards. Sur le factuel, ils n'ont pas progressé.
Et sur le factuel, après, ils ont investi aussi un peu d'argent quand même.
Alors c'est encore pire s'ils investissent de l'argent et qu'ils n'ont pas progressé.
Je vais rajouter
qu'ils sont incompétents. Alors là, c'est pas terrible pour eux. Donc maintenant, laissons l'avocat qui a des informations canon et qui évidemment croit aujourd'hui ce qui ne s'est pas passé hier.
Alors, il a des infos, et on est là dans un souci de neutralité pour garantir le même temps de parole. Donc, allez-y, maître Roten, pour défendre les dirigeants de Nice.
Moi, aujourd'hui, ça me fait rire de parler de, bien sûr qu'il y a du négatif dans le fonctionnement d'Ineos depuis 3 ans, depuis qu'ils sont à la tête de l'OGC Nice. Parce que, Ineos, ils sont là pour investir. Ils ont fait confiance à des personnes qui n'étaient pas compétentes pour ce projet-là. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Il y a juste à voir l'effectif de Nice, le recrutement de certains joueurs, les salaires donnés à certains qui sont difficiles aujourd'hui à accepter pour les nouveaux qui viennent d'arriver. Et les nouveaux, je parle de Flo Ghisolfi, directeur sportif, qui a excellé à Lens et où Ineos n'a pas hésité à aller le chercher, à le payer et à bien le payer aujourd'hui pour qu'il l'amène un peu plus de compétences dans ce rôle-là. La personne qui était là avant, c'était Monsieur Fournier. Moi, j'ai rien contre Monsieur Fournier, mais je pense qu'il a rien à faire dans le football, dans un club très ambitieux. Et la preuve, ça se voit avec le recrutement. C'est à rien y comprendre. Des joueurs prêtés, des joueurs qui repartent dans leur club, à l'image de Pépé, par exemple. Des joueurs qui ont été recrutés il y a quelques mois, quelques années, pareil, qui sont déjà repartis. Des attaquants, alors qu'on misait beaucoup, à l'image de Delors, par exemple. Hein, et puis, il y en a d'autres. Guiri. C'est la même chose, il y en a d'autres aussi, donc je vais pas toutes les citer, mais je trouve qu'il y a eu beaucoup d'erreurs dans ce projet sportif. Après, n'empêche que derrière Ineos, ils ont montré une chose, c'est que déjà ils ont pas hésité à mettre la main à la poche quand il fallait recruter un joueur, à l'image du mercato d'hiver, quand ils vont recruter Mofi et ils le prennent à l'Olympique de Marseille. Alors je veux bien que le fait que ça soit Flo Ghisolfi qui le fasse, ça a joué dans le choix de Mofi, mais derrière il fallait avoir les reins solides aussi financièrement parce qu'il y avait un vrai concurrent en l'occurrence l'Olympique de Marseille. Ils ont pas hésité, ils ont pris Ndiaye Gimene, le milieu terrain pareil qui était une priorité pour le RC Lens quand Flo Ghisolfi était. Il est venu parce que Ghisolfi a réussi à lui dire de venir à Nice et à lui vendre le projet, et surtout Ineos l'a suivi. Donc là-dessus, c'est quand même des garanties importantes dans les prochains mois. Après, derrière, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vois, c'est juste mes yeux, j'ai pas besoin d'avoir des informations. Ils ont pris donc Ghisolfi, ils ont pris Jean-Claude Blanc au Paris Saint-Germain, qu'ils ont arraché au Paris Saint-Germain. Jean-Claude Blanc est pas est quand même quelqu'un de très compétent. Partout où il est passé, ça a bien fonctionné. Alors, je dis pas qu'il va fonctionner qu'avec l'OGC Nice, parce que c'est sur le groupe Ineos. Et peut-être qu'il fera partie de la reprise aussi à Manchester United. Mais n'empêche que si le groupe Ineos rachète Manchester United, c'est certainement avec tous les sports qu'a mis en place en avant Jean-Michel tout à l'heure, entre le cyclisme, la voile et j'en passe, ça va être le groupe le plus important sportivement, avec des garanties de réussite, avec cet état d'esprit de compétiteur qu'il faut dans le football pour y arriver. Franchement, je préfère faire confiance à Ineos dans ce projet-là qu'à des fonds d'investissement américains qui connaissent rien à la culture du football.
On n'a pas demandé de choisir entre la peste et le choléra.
Du football en Europe. Donc moi, je fais juste confiance et je vois qu'ils ont détruit un projet qui est parti en vrille depuis 3 ans et qu'ils sont en train de le reconstruire avec Gisolfi, avec Jean-Claude Blanc et avec des joueurs différents. Donc laissez la chance à ce produit-là de mettre en place jusqu'au mois de juin, juillet, août, un effectif bien plus conséquent, armé à lutter pour les 4 premières places de Ligue 1. Okay. Et vous verrez que vous aurez des bonnes surprises.
Très bien. Monsieur le juge, vous tranchez pour qui?
Je tranche pour Jean-Michel Larquet. C'est un procès qu'on avait fait déjà il y a quelques semaines. Et à cette époque-là, je n'étais pas le juge, j'étais le procureur. Parce que moi, sincèrement, je me range complètement derrière les propos de Dante, qui étaient c'était des propos qu'il avait tenus qui faisait référence en début de saison dernière, mais c'est tout récent.
Il nous l'avait dit aussi dans Rotten Sans Flamme.
Exactement. Moi, je me rappelle simplement des grandes communications d'Ineos à leur arrivée. Avec, vous allez voir, dans les 3-4 années à venir, nous allons rivaliser avec les meilleurs du championnat. On jouera la Championship chaque année. Bon, c'est un flop total. Et surtout que je fais référence également à ce que nous a dit le président de l'OGC Nice, qui est monsieur Rivière, qui nous avait dans la première partie de saison l'année dernière, en disant, tout le monde va voir ce que sera réellement le projet Ineos en février. Février, on est quoi? On est en mai, on est quasiment à la fin du championnat, il se passe rien. Je sais pas qui va être l'entraîneur. Je sais pas si Gisolfi, qui a fait un travail remarquable, et là je te rejoins Jérôme, aura les cartes blanches justement pour faire ce qu'il a pu faire à Lens. J'en doute énormément. J'en doute énormément dans la mesure où Jean-Claude Blanc, à mon avis, il est plus focalisé sur le rachat de Manchester United que sur le GC Nice à l'heure actuelle.
Mais ça, c'est pas un problème aussi, hein.
Ah, bien sûr que c'est un problème.
Mais non, c'est pas un problème.
Dans ces cas-là, donc on se plaint de Khalafi qui a différentes casquettes, et là, tu es en train de me dire que lui, avec Manchester United, il va pouvoir aussi se concentrer sur le GC Nice.
Avec des moyens bien inférieurs, Lens a réussi à être en Ligue des Champions.
J'ai peur que le GC Nice devienne un club satellite, au final, et qu'au final, tout ce qu'on nous a vendu comme du rêve, en fait, je suis complètement d'accord avec Captain.
Qui est factuel aujourd'hui. Un satellite de Manchester United,
c'est un flop. Je suis désolé, c'est un flop.
Victoire de Jean-Michel dans ce fait d'entrer l'accusé dans une seconde. Tout le monde va se détendre avec Julien Cazard et son Cazard enchaîné. Jérôme, c'est pas grave. Allez, à tout de suite.
RMC, 18h20, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour,
Jérôme Roten.
18h47 sur RMC, toujours dans Roten sans flamme. Les 10 dernières minutes de la première heure, bien sûr. Et on sera là après 19h jusqu'à 20h, comme tous les soirs, avec Jean-Louis Tour, avec Manu Petit, avec Jean-Michel Larquet. Ça va être le moment de Julien Cazard. Mais Jean-Louis, donne-nous le programme de la deuxième heure.
Oui, on fête dans sur deux jours les 30 ans d'OM Milan. Êtes-vous nostalgique des présidents à la tapis? 32-16 pour débattre. Mais tout de suite, Julien Cazard.
RMC, Roten sans flamme. Le Cazard enchaîné.
J'étais de bonne humeur là, l'autre il me saoule avec cette histoire là. C'est quoi ces débats?
Oui, d'ailleurs, en préambule, bonsoir à toutes et à tous, on est le 24 mai, on s'en fout. En préambule de journal, je voudrais revenir sur cette histoire là, de débat là, Jean-Louis là.
Oui.
De débat, c'est quoi là? Êtes-vous nostalgique des présidents à la tapis?
Bah oui.
Avec Manu Petit, tu fais ça toi. Non mais allons-y. Ben alors c'est quoi le prochain débat? Êtes-vous nostalgique des Boulogne Boys avec Mickaël Madar, Rudy Haddad et Maxime Bartouche? Non mais j'en ai d'autres sinon. Clément Turpin doit-il arbitrer la finale de la Ligue des Champions avec Flo Germain, Eric Dimeco et Ben Gouze? Non mais allons-y. J'en ai un autre. Les vainqueurs de la Coupe de France doivent-ils fêter leur victoire en défilant sur un char à Gay Pride avec Saïd Amoulik, Moussa Diarra et Zakaria Abouklal? Mais allons-y. Non mais les mecs, Manu, toi tu laisses faire, toi. Non mais comment tu peux accepter de faire un débat pareil, Manu?
Ouais, je suis obligé de suivre. Hein.
Donc toi, on t'a dit quoi? Alors toi, t'es dans le camp des nostalgiques ou pas?
Sur certains points, oui.
Ouais.
Ça m'intéresse. Donc, ce que ces gens.
Tu vois, c'est pas attendu en fait.
C'est pas attendu parce que vous leur avez dit, vous avez fait plouf plouf. Mais Manu, toi, tu seras contre et Jean-Michel, tu seras pour et inversement.
Mais non, on a surtout rien dit à Manu.
Donc, ah oui, voilà. Il vient de découvrir. Attendez. Mais dans quel cadre d'émission vous me faites ça? Je pense que là, les dés sont pipés. Hein. Manu, c'est rien que les dés. T'inquiète pas. En même temps, on avait déjà fait. Messi doit-il être aligné sur les 5 derniers matchs avec Jérôme Rotten? C'était déjà une blague. Et tu fais, mais non, pas du tout! Pour des raisons éthiques! Je trouve ça scandaleux!
Bien sûr, scandaleux qu'il joue le dernier match au parc.
Et je pense qu'on devrait même décomptabiliser. Il devrait avoir 5 passes de suspension, normalement.
Pourquoi?
Sinon, il va battre le record. Tu sais, j'ai eu un mec du Parisien, là. Il paraît que t'as répondu au Parisien. Le Parisien, ils t'ont posé une question.
C'est à l'équipe.
Ah ouais, et ils ont. T'es sûr? Parce que dans le Parisien.
Je crois, L'équipe. Si. Mais non.
Parce que le mec dans l'article, il...
pas vu dans l'équipe aujourd'hui.
Ah oui, non, au Parisien, mais c'était la semaine dernière.
Oui, et ben dans le Parisien, ils disent, Jérôme, à la fin de l'interview, ils mettent Jérôme Roten qui a 17 passes décisives à une de Angel Di Maria qui en a 18.
Mais ce qui est pas vrai.
Ce qui est pas vrai.
C'est vrai que ce journal décline.
Mais le Parisien, c'est une catastrophe. Hein. Je sais pas s'ils m'écoutent, mais les mecs, va falloir vous remettre en question. Hein. Il y en a marre des fake news.
Allez, ça me dit.
L'équipe est bien supérieure au Parisien quand même.
Pardon.
L'équipe est bien supérieure.
Bien sûr, mais depuis que c'est plus le même groupe.
Attendons de voir l'article dans l'équipe quand même.
Ouais. Ils vont en donner combien dans l'équipe?
Si tu comptes les coups de pied arrêtés,
25. Ils en ont 22.
Oh, 25.
Il y aurait une passe de Chabalinonda à 1 mètre.
Oui. Tu l'aurais décalé sur un coup franc indirect.
T'as décalé de 1 mètre et il a tiré.
Ah non, c'est pas les passes à Léo Messi, moi. Ça, c'est sûr que c'est des vraies passes décisives.
D'accord.
Okay. Bon, vas-y, bah, parle d'autre chose.
Nous, notre dossier. Mais bien, je voudrais, mais tu m'interromps.
Oui.
Il m'interrompt avant que je parle. C'est quand même très rare. Dans notre émission, nous abordons l'affaire Vinicius et depuis les incidents à Valence, nous sentons bien que l'atmosphère dans le foot n'est plus joyeuse. Hein. Problème d'homophobie, ceux du racisme refont surface. Et c'est la question de l'acceptation de la différence qui est en jeu. Et Manu, j'ai repensé à toi.
Vas-y.
Il y a 25 ans, l'équipe de France 98 gagnait la Coupe du Monde et lançait un message de tolérance. Tu te rappelles le message de tolérance de la France 98? Mais si, une équipe où la différence n'était pas un défaut, elle était composée de... Mais oui, Jean-Michel, les gens différents à l'époque. Manu Petit, un homme qui se balade à poil dans les couloirs de Clairefontaine en se lustrant la queue de cheval avec de la vaseline, c'est différent. Mais on l'acceptait. Du gars qui vivait avec une malformation au pied qui l'empêchait de cadrer 90% de ses frappes, il était atteint de cubisme plantaire, qu'on appelait le syndrome du pied carré. Eh bien, on l'acceptait. C'était la tolérance. Et que dire de Franck Leboeuf qui se prenait pour un acteur qui courait avec un entonnoir sur la tête en criant Hollywood maintenant. Et voilà. Mais on le tolérait. Évidemment, je parle pas d'Isel Charbonnier qui était champion du monde et qui venait à l'entraînement en sabot lors des mises au vert. Il voulait dormir sur un sac de paille. Et bien malgré toutes ces différences, on vous acceptait. Et ça, c'était beau. Voilà, vive le vivre ensemble. Alors heureusement, il y a un club où le vivre ensemble, bah, c'est parfait. Hein, tout le monde s'aime, c'est le Paris Saint-Germain. Et nous reviendrons sur quelque chose qui met le feu au PSG. Tu as vu Jérôme?
Ah oui.
C'est Mbappé. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, qui ne voudrait pas lever l'option d'un an. Hein, on s'y attendait pas du tout à celle-là. C'est marrant. Hein. On était persuadé qu'il était parti pour 10 ans.
Il adore le
ici c'est Paris. Mon histoire s'écrit ici. C'est à l'encre sympathique. Les négociations ont été âpres et tendues entre le club et le joueur. Alors, à RMC, nous n'avons pas de micro chez Pfizer. Nous n'avons pas de micro chez McKinsey, mais nous avons des micros dans le bureau de Nasser à Doha.
Ah, bon, Kylian, il faut qu'on parle de l'avenir, de ton avenir et de Paris Saint-Germain.
Eh oui, pas de problème.
Alors, on fait comme t'as dit, on va pas renouveler les contrats de Lionel Messi.
Ah ben très bien, je peux plus libérer le nain Asperger, là.
Et on va réduire les salaires des Ramos.
Eh ben parfait, la vieille espingouine, là, qui retourne à l'EHPAD.
Et ensuite, on va vendre Virati au Real.
Nickel, moi là, le clos dépouille encore un peu, je lui faisais bouffer sa vodka Red Bull par le cul avec une paille.
Et on va vendre Neymar à Manchester United.
Encore mieux, le teubé de Copacabana qui aille faire des cloches piadas chez les Rose Beef, ça lui passera l'envie de faire des roulades.
Voilà, et comme on a fait 10 économies, j'ai calculé, ça fait 90 millions d'euros d'économie de salaire, hein.
Et t'as oublié Bernat, là. Il prend 4 bars par an pour cirer le banc. Alors tu me le renvoies bouffer du chorizo chez Samir à Malaga.
D'accord. Et pour Hakimi, c'est gros salaire aussi, hein.
Calme-toi, moi, Achraf. Ne me suis plaisante. Non, Hakimi, on garde, hein. Non. Alors donc, là, ça fait 90 plus 195 millions d'économie de salaire, qui s'ajoute à 1070, mais ça me fait 165 millions l'année. Ça devrait suffire pour rester.
Comment ça, c'est pour toi?
Ben oui, c'est pour moi.
Mais si tu prends tout le salaire, on fait comment pour acheter 10 autres joueurs?
Mais Simon, t'as pas besoin, t'as une ticket, t'as Zaïre Emery ou Sidi Garbi. Hein, puis moi, je peux t'avoir Cherki pour un bon prix, là, et roule ma poule. Ils auront qu'à balancer la balle devant, de toute façon, je cours plus vite que tout le monde. Et ça suffit pour gagner la Ligue 1.
Et mais si on passe pour 10 cons en Ligue des Champions?
Mais on passe toujours pour des cons, c'est pas grave. Mais de toute façon, moi, dans un an, je me tire au Real. Ah tiens, dernière chose, je me disais 95, c'est bizarre, là, comme chiffre, là. Il prend combien, le travelo frisé, là, qui a une tête de blédard?
Marquinhos?
Oui, c'est ça, lui, là.
Et c'est 5 millions, net.
Très bien, mais tu me le dégages, ça fera 100 pour moi. Petit compte là, c'est plus simple pour ma compta.
Ah, ben, d'accord.
Eh, en liquide, hein, je veux pas d'emmerde.
D'accord.
Ouais, en fait, c'est pas mal. C'est une bonne tactique. C'est que si j'ai bien calculé, on mise tout sur Mbappé. Chaque année, on rajoute 20 millions d'euros et on vire tous les mecs qui foutent le bordel. Tous les mecs. Ouais. On joue qu'avec lui. À mon avis, ça peut marcher. Hein. Ouais. Mais puisqu'il paraît qu'il faut tout miser sur Mbappé. Je voudrais finir sur le FC Nantes. Oui. Le FC Nantes au fond du trou.
Ah oui. Et comment ne pas se demander comment s'en sortir, et surtout pourquoi ne pas demander l'avis d'un ancien grand coach du club jaune et vert, au Panthéon du des Canaries, entre José Arribas et Reynald Denoëx. Je viens par sûr de Raymond Domenech.
Ceci est une analyse de Raymond Domenech.
Et non, là, j'ai vu les résultats de Nantes. Le regard du top 14 qui a remplacé Combora, il est au courant qu'il n'entraîne pas l'aviron bayonnais. C'était pour faire aussi, ils auraient carrément pu me prendre. Hein. Moi, je pouvais faire largement pire même. En plus, moi, pour le même prix, je te fais une dinguerie en conf de presse. Je déclare que je deviens transgenre après la défaite et je demande la main de Valdemar Quitta. Bon, je vous laisse. Là, il y a le comptoir d'Estelle qui débute avec Paris Collégas et Fred Hermel qui vont débattre de la montée de l'antisémitisme dans les milieux d'extrême gauche. Et le Doliprane est-il plus efficace en suppo?
Ceci était une analyse de Raymond Domenech.
C'est des vrais sujets.
Ça existe le Doliprane en suppo?
Bah écoute, tu le fais jamais?
Bah écoute, c'est le midi.
Ah franchement, je peux te dire, quand tu te le mets, t'as plus mal à la tête. Allez.
RMC, le Casar enchaîné.
Réécoutez Julien Casar en podcast sur rmc.fr et l'appli RMC.
Julien qui est de retour tout à l'heure pour un moment très important dans Rotten sans flamme, le quiz. Et peut-être cette cuillère de bois si Jérôme enchaîne une troisième défaite de suite. Dans une seconde, les 30 ans d'OM Milan, êtes-vous nostalgique de cette époque avec des présidents à la Bernard Tapie? Le débat au 32-16, à tout de suite.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h01 sur RMC, toujours dans Roten sans flamme. On continue nos débats dans Roten sans flamme. C'est la deuxième heure, bien sûr, avec Manu Petit, avec Jean-Louis Tour, avec Jean-Michel Larquet. Oui, on a passé une bonne première heure. Si vous l'avez raté, bah, c'est pas bien. Elle est déjà disponible en podcast. Vous pouvez aller télécharger, vous abonner à la chaîne Roten sans flamme. Comme ça, vous êtes
au courant de tout ce qu'il y a.
Au courant. Et puis, vous refaites toutes les grands débats. Il y en a eu, ces derniers temps.
Les grands débats, les grands invités. Enfin, il y a tout sur la chaîne. Donc, allez-y.
Il va y en avoir. Restez bien à l'écoute. Il va y en avoir dans quelques jours.
Et c'est pas mal aussi de réécouter des grands invités avec la perspective des mois qui ont suivi derrière. Tu vois,
s'ils ont dit des conneries.
Luis Campos ou Christophe Galtier en début de saison.
On pose.
C'est savoureux aussi, vu la saison qu'ils ont traversée.
Et il s'est cassé la gueule.
Vous avez tout ça sur le podcast de Roten sans flamme. Et dans cette deuxième heure, les Gunners peuvent-ils s'en vouloir? On va revenir sur le titre de Premier League qui leur a été promis il y a encore quelques semaines avant qu'Arsenal ne s'effondre. 32-16, venez dans le ring des supporters de 19h30 pour en débattre. À 19h45, la cuillère de bois va-t-elle se rapprocher encore un peu plus pour Jérôme? Troisième quiz de la semaine avec Julien Casar.
Non mais c'est bon, on le comprend, votre jeu. Je sais que vous faites tout. Je suis tout seul au monde, mais je vais réussir.
C'est le nom du quiz, hein, Roten contre le reste du monde.
Oui, oui.
Donc, il fait son
hier, je menais 4-2. Demain, 5-2. Il va balancer des questions à 3 points.
Ouais, n'importe quoi. Il se plaint tout le temps. C'est incroyable. Je jure. Je sais pas comment. Comment il a pu être sportif de haut niveau en se plaignant des éléments extérieurs en permanence.
Par contre,
c'est l'arbitre, c'est le coach, c'est mes partenaires, c'est tout ça.
Il y a un ancien du PSG, toi.
C'est dingue, ça. Hein.
C'est vrai qu'avec moi, les coachs ont vieilli plus vite qu'avec d'autres. Mais bon.
En plus de la cuillère de bois de Jérôme.
Mais j'en ai eu des cons aussi.
Il y a. Ah bon?
Ah ouais.
Non, mais cons, c'est exagéré. C'était buté, peut-être.
Si on pose la question aux entraîneurs, peut-être qu'ils feraient la même chose, non? Cons, c'est insultant, c'est vrai, mais.
Un peu têtu, quoi.
C'est insulté. Hein. Ouais, c'est insultant pour qui? Pour les cons?
Oui, voilà.
Bon, en plus, nous aussi, on est des consultants. Hein.
Merci, Manu.
Merci, Manu.
Là, on la coupera. On la coupera du podcast. Il y a une semaine de vacances dans une résidence Lagrange à gagner dans le quiz. Pour vous inscrire, vous envoyez top et vous l'envoyez au 732-16. Tout de suite, on revient. Il y a 30 ans.
Et but.
Une de Basile Boli sur ce corner.
Avec Nana. Appelle les stars, la Bruno Escobar.
Et c'est fini! L'Olympique de Marseille a remporté la Coupe d'Europe des clubs champions.
N'oublie jamais d'où tu viens.
La rue, c'est mon terrain.
Oh là là, cet arrêt de Vidal. Les Brésiliens sont en blanc. Amédi Pelé. Et but, fabuleux! Fabuleux but de Basile Boli.
Dans le foot, les affaires, le rap, les ministères, c'est toujours le gangster qui contrôle l'affaire.
Centre de Pelé vers Papin qui dévie habilement vers Chris Waddle qui reprend. Et but fantastique de Chris Waddle.
C'est beau la vie.
Ouais, c'est beau la vie.
Alors vendredi. On fera le 26 mai.
C'est bon, ça.
Et le 26 mai, ce sera donc les 30 ans de la victoire de l'OM en Ligue des Champions. face à Milan. À cette occasion, le Super Moscato Show sera en direct de Marseille pour fêter cela. Eric Dimeco et d'autres légendes de l'OM seront là entre 15h et 18h. Et durant les célébrations, il y aura des pensées inévitablement pour Bernard Tapie, le boss de l'époque qui nous a quittés donc en octobre 2021. Le succès, bon, c'est clairement le sien. Alors, êtes-vous nostalgique des présidents à la Tapie dans le foot? 32-16, appelez-nous pour en débattre. Aurélien Tiersin nous rejoint. Salut Aurélien.
Salut à tous.
Alors, il est replongé dans les plus belles sorties de l'époque Tapie à Marseille.
Ah, il savait très bien imposer sa manière de voir les choses, très bien le raconter également. Il arrive à l'OM à la fin des années 80. En face de lui, il y a Claude Bèze, le président de Bordeaux. Il y a Jean-Louis Campora, président de Monaco. Et voilà ce qu'il dit, ce qu'il fait en arrivant à l'OM.
Je pique Giresse à Bordeaux et Papin à Monaco.
Je viens d'arriver.
Ça veut dire que je viens de mettre ma main là en disant, c'est plus vous les tauliers les mecs. Je sors Giresse, mais sortir Giresse de Bordeaux, c'était pas possible. C'était inenvisageable. Quant à Papin, il part de Bruges pour Monaco. Et je lui offre l'aventure dans un club qui a rien gagné depuis 17 ans. Mais Papin, il a un cœur comme ça. Je lui dis, je peux pas y arriver sans toi.
Et voilà, c'est le taulier. Il sait convaincre tout le monde, Tapie. Et juste après, il s'attaque même à Maradona. À l'époque, c'est le numéro 1 au monde. Il joue à Naples.
Moi, ce que je veux, c'est pas faire du show avec Maradona. Ce que je veux, c'est gagner la Coupe d'Europe. Mais je le veux. C'est pas je le voudrais bien. C'est je le veux. Et peut-être que Maradona, c'est un petit plus. Car malgré qu'il fasse 10 kilos de trop, d'après Thierry Roland, il a gagné la Coupe d'Europe l'année dernière, l'air de rien, avec ses 10 kilos de trop.
Ah, il faut travailler son physique hein, avec Bernard Tapie. Autre duel iconique à Marseille, Tapie-Cantona. Il n'aime pas beaucoup qu'il jette son maillot de l'OM à terre lorsqu'il sort d'un match de foot. Et ça, ça plaît pas beaucoup au boss, évidemment.
La première année, ça se passe bien.
Oui, mais il jette son maillot.
Mais c'est fini.
C'est fini. Mais pourquoi il
jette son maillot? Parce qu'il a fait le mauvais garnement qu'il avait l'habitude de faire avec Giroud. Et avec moi, c'est interdit.
Ah, c'est l'anniversaire de Canto en plus aujourd'hui. On l'embrasse. Donc Bernard Tapie, ça rigole pas. Et ça rigole pas non plus quand il parle avec Audrey Pulvar sur un studio télé il y a quelques années.
On va parler de foot. Ça au moins, ça
non,
n'a.
Ça,
ça, ça vous intéresse pas non plus. Bon, bah, écoutez.
Je parle de foot avec des gens qui connaissent le foot.
D'accord.
Voilà. Pas avec vous, je vais parler quoi. Bah, parler avec le mec qui a l'oreille.
Bon, j'espère qu'il aurait parlé un petit peu avec nous aussi, de football.
Pas sûr,
tu l'aurais parlé de nous ou pas?
Merci
pas.
Aurélien.
Ouais.
Alors messieurs, est-ce que vous êtes nostalgique des présidents à la Tapie, Jérôme?
Oui. Oui, oui, nostalgique, mais pas que de Bernard Tapie, parce que bah, moi j'étais plus gamin et en effet tout ce qu'a mis en avant Aurélien, je m'en souviens très bien et ça marque les esprits forcément. Mais j'ai eu la chance d'avoir des présidents charismatiques et surtout un, c'était et Aurélien l'a cité ou toi, c'est Jean-Louis Campora. Et Jean-Louis Campora, c'est pas du tout le même style de personnage que Bernard Tapie, ça c'est une certitude. Et j'ai beaucoup échangé hein, avec Bernard Tapie aussi parce que ça reste un homme fort dans le football et même tout ce qu'il a entrepris, c'était un homme brillant dans tous les cas. Et Jean-Louis Campora, moi j'ai eu la chance de l'avoir comme président. Il n'avait pas besoin de parler tout le temps, mais quand il venait, je peux te dire qu'on rigolait pas. Il y avait du respect, il y avait deux trois phrases, ça suffisait, pas des longs discours. Et il y avait surtout un respect du club, l'institution. Il dégageait ça. Du moins, souvent on dit l'identité du club, l'âme du club, c'est les supporters. Non, mais ces présidents là, ils dégageaient ça en fait, juste simplement. Et quand tu signais le contrat, tu savais où tu mettais les pieds. Tu savais qu'à Monaco, t'avais plein d'avantages, beaucoup, mais derrière, il fallait pas faire de bordel, il fallait pas faire de fausse route, parce que t'avais le droit à faire une erreur. Mais la deuxième, pardonnez pas. Et je pense que Bernard Tapie, à tout ce qu'on a vu, c'était un petit peu ça. Sur Cantona, c'est exactement ça. Et moi, je suis nostalgique de ça parce qu'aujourd'hui, des présidents où c'est leur club, c'est vraiment, ils prennent ça en eux.
Certains, dont c'est l'argent qui est investi. Oui. Il y en a pas beaucoup.
Ben, c'est pour ça. Donc, le dernier.
Nicolas à Montpellier.
Le dernier en date, c'était Jean-Michel Aulas.
Jean-Michel Aulas.
Après,
ouais.
Moi, j'aurais, il est.
Quand même, c'est Laurent Nicolas, Jean-Pierre Caillot.
Jean-Michel Aulas est moins charismatique que les Campora, les Claude Bèze les Bernard Tapie et j'en passe. Mais n'empêche que c'était un président un petit peu comme ça qui allait dans ce sens-là. Moi, je regrette juste les dernières années parce qu'il était à côté de la plaque sportivement. Mais avant, c'était fantastique ce qu'il mettait en place. Le sportif primait. Et avec ces gens-là, avec ces personnages-là, c'était le sportif qui primait avant tout.
La différence, Captain, aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de présidents délégués.
Exactement. Eh oui, ça n'a rien à voir. C'est pas le roseil. Et donc, pour la plupart. Pour la plupart, c'est pas, même si la situation de Jean-Michel Aulas était un petit peu exceptionnelle. Mais les autres, Campora était l'un des responsables du gouvernement monégasque, je crois, à l'époque.
Le premier ministre.
Voilà. Et puis Roger Rocher n'a jamais été salarié, encore moins que Nicolas. Ou moi, j'en cite encore un parce que je l'ai eu. Ça a été mon dernier président en tant que footballeur professionnel. C'était Francis Borrelli qui était.
C'est ce que j'allais dire.
Ces gens-là, ils avaient quelque chose. C'est que putain, ils aimaient le football. Et je vous assure, ils adoraient. Et c'est pas par hasard que j'ai cité Francis Borrelli à la fin. Mais le jeu, ils aimaient le jeu. Ils aimaient les joueurs. Ils aimaient leur club. Pour eux, c'était c'était viscéral. C'était dans les tripes. Et effectivement, c'était des gens qui ont dépensé beaucoup d'argent, que ce soit eux ou Daniel Echter, même dans un style différent au Paris Saint-Germain. Mais aujourd'hui, on ne retrouve pas ça parce que, et oui, tu le sais, Jérôme, tout est aseptisé, tout est cadré, tout est ceci, tout est cela. Là, il y avait quand même les joutes mémorables entre Claude Béze et Bernard Tapie, ce qui ne les empêchait pas de faire des bonnes affaires entre eux, hein. Mais ils étaient, comme l'on dit, d'excellents clients. Et quand moi je raconte les histoires de Nicolin, qui venait de se faire mettre un examen pour une histoire à La Réunion et qui arrive sur le bord de la touche avec Tapie lors d'un Marseille-Montpellier et qu'elle lui disait « Mais qu'est-ce qui t'arrive, Loulou ? Ben, je viens de m'être mis en examen. Combien t'en as, toi ?» Une, disait l'examen. Nanar, 15. Il disait 15.
Alors, oui, parce que Jean-Michel, on n'oublie pas quand même les affaires, ce qui s'est passé à la fin Bernard Tapie. Ce dont on parle, là, c'est le management, la gestion des hommes.
C'est le charisme.
Qui, pour le coup,
évidemment qu'on n'est pas pour les affaires.
Bien sûr.
Mais Jean-Michel, c'est Valenciennes et de Milik qui était parti, qui était arrivé avant de partir.
Milik. Tu sais, Jean-Michel, t'as dit un truc très, très juste et je ne l'ai pas dit et je regrette de ne pas l'avoir dit en priorité parce que c'est exactement ce que je pense de ces personnages-là. Je sais pas, Manu, ce que tu en penses aussi. C'est le côté passionné, amoureux du football déjà, et amoureux des joueurs. Et en fait, c'est ça qui manque aujourd'hui.
Il n'y a pas que ça qui manque. Alors moi,
ça c'est important.
Manu Petit. Il y a tout. Je n'aimais pas tout du côté de Bernard Tapie, bien évidemment, puisque j'en étais là une des principales victimes également. Ouais. Donc dans notre lutte à chaque fois à gagner le championnat de France, mais qu'il repose en paix. J'ai pas envie de rouvrir ce chapitre-là. Tout le monde le connaît.
Et les fonds disponibles.
Exactement. Donc, pour moi, il y a prescription et la page est tournée. Le livre est fermé. En revanche, sur ce qui me manque réellement, c'est en dehors de ce que vous avez dit, les garçons, le côté passionnel, ce lien justement indéfectible qu'il pouvait avoir avec les supporters, c'est le côté sulfurique qu'on pouvait amener justement avec Bordeaux, avec l'Olympique de Marseille, mais qui se pouvait en plus se générer à travers les joueurs. Moi, je me rappelle
de
certains rendez-vous en équipe de France où tu avais un vestiaire qui était composé essentiellement des joueurs. Oui, je suis nostalgique parce que tout est devenu tellement neutre.
À l'époque, on disait que c'était une catastrophe.
Mais regardez,
les Marseillais contre les Parisiens, ça sentait la poudre,
le sang, la sueur. C'était tout ce que définit justement le football, le côté passionnel. Il y avait des fumigènes dans les stades aujourd'hui.
Non, mais attends, Manu. Ça, ok,
non, mais Jean-Louis, le problème, c'est que vous voulez une société aseptisée.
Mais non, pas du tout.
Non, mais c'est la génération.
Le foot, c'est quoi? C'est des émotions. Ces gens-là apportaient ces émotions.
N'écrivez pas l'histoire totalement. Que les rivalités entre clubs sont indispensables pour vendre les championnats et tout ça, ça fait partie du foot, ça je suis d'accord. Mais en équipe de France, pendant des années, on a entendu, c'est une catastrophe les Marseillais.
Mais regarde l'Espagne avec le Barça et le Real.
À l'époque, bravo à Aimé Jacquet d'avoir réussi à calmer les choses, qu'il n'y ait plus cette rivalité en équipe de France.
Non, je suis en train de te dire qu'à travers leur président charismatique, à travers justement la rivalité qui pouvait opposer certains clubs, ça pouvait justement redescendre au niveau des joueurs. Et moi, je me rappelle les avant-matchs ou deux ou trois jours avant les matchs, la pression incroyable qu'il y avait dans la presse.
Matchs,
on s'envoyait de la sulfateuse en permanence. C'était une guerre de communication. passion, on s'insultait, quoi. C'était un truc de fou. Mais au final, on réglait les comptes sur le terrain. Voilà. Ça bastonnait, ça envoyait du lourd sur le terrain. C'était, mais vraiment, c'était un combat sans nom. Les aujourd'hui, je me fais chier. Ouais, tu diras, excuse-moi.
Les anecdotes sont fabuleuses.
Tu me diras, tu t'ennuies.
Bah, je m'ennuie. Le seul qui reste, c'est Jean-Pierre Caillot. On a une pensée pour lui.
Oui, et Borrelli, rappelle-toi Borrelli avec sa sacoche quand il venait embrasser la pelouse.
Jean-Michel.
Non, mais dans ce cadre-là, il y en a un qui était fantastique. Moi, je me régale quand il avait les cheveux bleus et qu'il était face à la tribune avec ses joueurs. Lorsque lorsqu'il a gagné la finale de la Coupe de France avec les cheveux bleus,
mais oui.
bleu et orange, c'était
il en pleurait, le gars.
Un grand moment. Moi, je me suis fait raconter par Michel Mézy. Lorsqu'ils ont été champions de France,
oui. Là c'était la crête orange
avec Giroud et que au Massin-Gabriel, au repas de qui fêtait le titre, il y a le capitaine qui est allé demander une prime exceptionnelle à Loulou Nicolin pour le titre de champion de France. Le reste, je vous le raconte pas parce que je suis incapable. Quand Michel Mézy me raconte la réaction de Loulou Nicolin. Mais c'est un sketch qui digne des meilleurs sketchs des inconnus.
Bah, c'est du
pourquoi raconte-nous, qu'est-ce qu'il lui a dit?
Parce que ça s'est terminé avec des assiettes qui volaient, partaient toutes de la position stratégique qu'occupait.
Mais pourquoi il a pas le droit de demander une prime de titre de champion?
Ben oui, il a demandé la prime, mais je pense que Loulou Nicolas n'était pas disposé à la donner. Voilà. Donc il a dit que vous voulez la prime.
Avec ses mots en plus, j'imagine très bien.
J'ai un vol d'assiette qui est parti dans le Massin Gabriel.
Voilà la prime. Hop.
Voilà la prime. Vous l'avez.
Bon, on va continuer le débat dans une seconde.
Ce sont des personnages hors pair.
Michel sera là au 32-16, lui aussi est nostalgique. Êtes-vous nostalgique des présidents à la Bernard Tapie? Le débat continue dans Rotten sans flamme, à tout de suite.
RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
19h18 sur RMC, toujours dans Rotten sans flamme. On continue nos débats sur les entraîneurs, sur les présidents charismatiques, oui, qui nous manquent forcément. On est avec Manu Petit, avec Jean-Michel Larquet et avec Jean-Louis Tour. Jean-Louis, donne-nous la suite de la dernière heure.
On va parler d'Arsenal. Manu, ça va te faire plaisir. À 19h30, les Gunners peuvent-ils s'en vouloir dans la course au titre qui se sont effondrés depuis deux mois? 32-16, montée sur le ring des supporters pour participer au débat. On est sur les 30 ans d'OM Milan. Sera vendredi. Êtes-vous nostalgique des présidents à la Tapie? Michel nous rejoint à 32-16.
Salut Michel.
Salut. Salut les gars, ça va?
Bienvenue
ça
Michel.
Va bien.
Bah ouais, écoute, on est en pleine forme. Alors, qu'est-ce que tu penses de notre débat là, les présidents charismatiques qui manquent?
C'est plutôt sympa. Vous revisitez un pont du football français qui se sentait un peu différemment. Moi, j'ai 61 ans et la chance que j'ai eue, parce que pour moi, c'est une chance. Je suis à l'époque, je suis de Montfermeil dans le 93, moi.
D'accord.
Et on a un club de foot avec une pelouse magnifique. Et il y a l'entraîneur des seniors. C'est un mardi soir. Il jouait à 4-600. À l'époque, c'était des 604. Je viens vite refumer à rentrer dans le stade. Et je vois sortir un mec avec un grand manteau Adidas, Bernard Tapie, qui vient en tant que, à l'époque, il est ministre de la ville et il met en place un forum des citoyens, si je ne me gourre pas, c'est ça, où il va générer un petit peu dans les cités un programme sportif, enfin un programme social, éducatif et pédagogique par le sport. Et donc, il vient au stade de Montfermeil, bref, et on commence à parler. Parle de la pelouse qui est meilleure qu'au stade Vélodrome, enfin, comme si on se connaissait depuis 25 ans. Et un super contact, bref. Et je me retrouve un mercredi après-midi en train de faire des sélections, des détections, parce qu'il a promis d'emmener 10 gamins à Marseille. Donc on fait des détections en veux-tu en voilà. Je suis à côté de Michel Hidalgo, qui est pour moi l'entraîneur qui a été champion d'Europe avec l'équipe de France. Donc c'est pour moi un grand moment aussi. Un mec extraordinaire, d'ailleurs, au passage, Michel, vraiment super mec. En tout cas, moi, j'en ai un nouveau souvenir super chouette. Il nous voulait faire des détections, bref. Et puis le volet plutôt sympa. Déjà, d'une part, c'est que il nous a amené le variété au complet avec le carré magique à Montfermeil. Et deuxièmement, il nous a invité, enfin moi, il m'a invité pendant une semaine à Marseille en immersion totale dans le club.
Ah ouais.
À l'époque, où c'était franchement, déjà, footballistiquement parlant, quand vous voyez les garçons à l'entraînement, Jean-Pierre Papin qui travaille devant le but et tout ça, c'est pas ce que disaient Thierry Roland et Jean-Michel à la radio, enfin à la télé, c'était pas des bêtises, hein, quand on savait qu'après les entraînements, ils s'entraînaient.
Non, je disais pas de bêtises.
Ouais, c'est important de le préciser, Michel. T'as raison.
Jean-Michel, il a jamais
dit
de bêtises d'ailleurs.
Thierry Roland non plus, Michel, attends.
Comment?
Mais Thierry Roland non plus.
Non, à Thierry Henry non plus d'ailleurs. Et mais pour vous dire franchement, et j'ai découvert un homme extraordinaire qui m'a fait partager des moments super chouettes à l'ancienne, capable d'intervenir dans les séances d'entraînement, de prendre les joueurs devant l'entraîneur.
Ils aimaient le football, ils aimaient partager, voilà, ils aimaient partager.
Mais alors, on est tous nostalgiques, ça, il n'y a pas de souci, mais alors pourquoi ça n'existe plus aujourd'hui? On a parlé de l'argent, des présidents délégués tout à l'heure aussi. Est-ce qu'il n'y a pas l'évolution de la société aussi?
Mais bien sûr, Jean-Louis, je vais te raconter une anecdote qui est aujourd'hui impossible. Impossible. Essaye de la transposer avec d'autres personnages. Il y a, à l'époque, il y a le président qui a précédé bien avant Bernard Tapie à l'Olympique de Marseille, s'appelait Marcel Leclerc.
Oui.
Il vire Lucien Leduc, alors que Lucien Leduc est en tête avec l'Olympique de Marseille. Mmh. Le lendemain, tu sais qui est-ce qui dirigeait l'entraînement en short et en maillot de l'OM ?
Leclerc.
Lucien Leduc. C'était Marcel Leclerc.
Ah, oui, oui.
Est-ce que tu vois Nasser El Khelaifi virer Ancelotti et mener la
Il y en a un que je vois faire ça, c'est Valdemar Quitta.
Ouais.
Qui serait capable.
Il l'a dit, hein. Il a dit qu'il s'était posé la question de d'entraîner un jour.
Ouais.
Pour voir que.
Ouais, mais
Jean-Michel, moi je te trouve.
Il a viré des entraîneurs.
Moi je te trouve trop catégorique. En fait, pour toi, c'est peine perdue. Moi, je reste persuadé que d'avoir des hommes à la tête des clubs, président délégué ou pas, ou si c'est ton argent, bon, là, de moins en moins, parce qu'il y a beaucoup de fonds d'investissement aujourd'hui. Mais n'empêche que le président délégué, quel qu'il soit, il peut aussi avoir la passion du football, remettre ça au goût du jour, défendre les couleurs de son club. Peut-être que je vis dans un autre monde, mais moi je reste persuadé que tu peux avoir, il y a ce côté-là un petit peu qui transpire chez Pablo Longoria. T'as l'impression que il a un pouvoir en lui. Il s'est identifié assez vite à ce que les gens. Non, attention. Non,
il manque un truc, Jérôme.
C'est
l'attachement aux joueurs.
Je vais pas.
Dans Longoria, il a aucun attachement aux joueurs. C'est là que t'allais en venir.
C'est exactement là que je voulais venir, parce que en fait, il a certains côtés qui sont bien pour le foot et qui font du bien au football, et ça fait du bien d'avoir des mecs comme ça. Après, il y a des manques aussi, et l'attachement aux joueurs, alors même si c'est une autre génération, et en effet moi j'ai des enfants qui ont un certain âge, qui sont adolescents, donc c'est pas la même génération que nous. On est d'accord, donc ils sont en avance sur plein de choses, c'est pas les mêmes respects, c'est pas les mêmes codes, mais ce qui est sûr, c'est que là on parle de football, on est dans une bulle dans le football. Le directeur sportif, quel qu'il soit dans le club, il doit aussi amener ça, cet amour du club, l'amour des joueurs.
C'est plus possible.
Quand tu es un directeur sportif, un président, tu ne peux pas aimer tes joueurs.
Non, c'est pas ça. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est que on vit dans un monde aujourd'hui où qui est complètement déconnecté, où chacun est replié sur lui-même, où il n'y a plus de fraternité, il n'y a plus d'empathie envers l'autre. Les gens se font défoncer en permanence par une majorité de gens qui sont bien cachés derrière l'ordinateur.
Et tu
ne
peux pas essayer de faire changer les choses.
Dans le foot aujourd'hui, cite-moi un club où tu as encore un président qui puisse transcender ça, même à travers une direction sportive, où même les joueurs eux-mêmes n'ont plus cet amour du maillot, justement.
Il n'y a plus
de joueurs qui restent dans les clubs aujourd'hui.
Regarde à Lens. Lens, c'est un peu ça ce qui dégage. Non, mais je sais pas, moi, je vous pose une question comme ça.
Je pense que c'est un des rares clubs qui a gardé sa dimension humaine.
Donc, quant à ça, tu y arrives?
Preuve qu'ils ont des résultats.
Non mais d'accord, mais ça veut
Montpellier
pas.
Montpellier aussi, on peut citer.
Montpellier,
c'est devenu des minorités.
Reims, c'est vrai.
Avant c'était des majorités, il y a 20-30 ans. Aujourd'hui c'est de la minorité.
Oui, mais écoute, je regarde Strasbourg pour remonter avec Marc Keller. Je pense qu'ils ont mis aussi beaucoup d'affectifs là-dedans.
Oui, ils ont monté 3-4 divisions avec une ossature,
Non mais tu le fais pas. C'est pas du hasard. Ouais. C'est pas le fruit du hasard.
On est d'accord.
Bon, alors tout le respect que j'ai pour Marc Keller, par exemple.
Oui.
Vraiment, c'est un garçon.
Normalement, la fin de la phrase n'est pas dingue.
Voilà, attention, avec tout le respect, il va lui mettre un taquet.
Mais avec tout le respect que j'ai pour Marc Keller, qui est le président du Racing Club de Strasbourg. Demain, Marc Keller, s'il a un acheteur, puisque.
C'est le cas en ce moment.
Voilà, il vendra.
Oui, mais d'accord.
Loulou Nicolin, la paillade, il ne l'aura jamais vendu.
Oui, d'accord.
Vous voyez ce que la différence.
Oui, mais Marc Keller, il n'est pas au club depuis 2 ans. Il a construit, ça fait quoi? Ça fait 7-8 ans maintenant.
Oui, oui.
Mais donc, ça faisait 30 ans qu'il
donc,
était.
Donc, je sais pas, mais comme quoi, tu peux aussi transmettre, même avec cette nouvelle génération, des codes qui étaient des bons codes d'avant, quoi, tu vois. C'est pas, il faut pas s'avouer vaincu à chaque fois.
Il y a encore des joueurs qui ont cette mentalité. Là, je fais référence à ce qui s'est passé ce week-end en Angleterre avec le départ de Firmino. Oui. Vous l'avez vu hein, comment il a été à la fin du match quand il est rentré à 20 minutes de la fin, il égalise.
On n'a pas la même éducation.
Oui, exactement, capitaine. Non, mais même t'as des joueurs qui ont encore des valeurs qui sont ancrées intérieurement de façon humaine et qui tu sentais que c'était un déchirement pour lui de partir. Il s'est mis à pleurer. Il a été réconforté par les joueurs.
Mais tu crois qu'en France il y en a pas des joueurs comme ça?
Ce sont des minorités. Tu prends chaque club dans les effectifs, ce sont des minorités.
Ben il faut faire en sorte que ça soit plus des minorités.
Mais comment tu veux faire? Dans mais un comment, système aujourd'hui mais comment tu où veux faire, il y a que l'argent qui parle. Mais
comment tu veux faire? Ça veut dire que l'approche est différente. Le président, directeur sportif doivent avoir peut-être retrouvé un petit peu plus de
Côté passionné. C'est un message envoyé à Khalafi dans ses prochains joueurs, les profils qu'il veut prendre.
Oui.
Jérôme, quand tu entends certains joueurs qui te disent au bout de 3 ans ou 4 ans, ah oui, l'année prochaine, je vais changer parce que j'ai fait le
tour. Mais même capitaine, quand ils arrivent au club, ils marquent un but, ils embrassent les cuissons.
Moi, au bout de 13 ans à Saint-Etienne, j'avais pas fait le tour de la question. Ils font très vite le tour de la question.
Non, mais ça,
je vous rassure. Et je vous rassure.
Les mecs, ils prennent les cuissons, ils l'embrassent et tout, alors que ça fait 2 mois qu'ils sont arrivés.
Ça n'est pas spécifique au football professionnel, je vous l'ai dit.
Mais oui, mais bon, moi.
Allez, on arrête sur ce débat. Merci.
C'est pareil, On consomme et. Et c'est du football. Écoute,
merci Michel d'être venu au 32.
Merci Michel.
Le témoignage était très intéressant. À très bientôt Michel.
Il est passionné, ultra passionné, amoureux du foot. Il en faut de plus en plus dans les clubs.
Dans une seconde, le foot anglais, la première ligue promise à Manchester City.
C'est vrai. C'est vrai.
Vous me dites qu'on vous avez fini.
Pardon, excusez-moi.
Manchester City, non, c'est bientôt champion. Oui, j'ai l'impression. Arsenal peut-il s'en vouloir de cette perte du titre? À tout de suite.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h32 sur RMC, toujours dans Roten sans flamme. Il reste une demi-heure dans Roten sans flamme. Et oui, on est avec Manu Petit, avec Jean-Louis Tour et avec Jean-Michel Larquet. Ne ratez pas le quiz de Julien Cazard dans 15 minutes. Oui, et puis avant, un bon ring des supporters sur le foot anglais, tiens Jean-Louis.
Exactement, mais attention, le quiz, faut bien annoncer, cuillère de bois.
Oui, allez, vas-y.
Ah non mais c'est Jérôme, c'est mon boulot de faire ça.
Je te promets, que je ne fais pas appel au Joe. Tu es en vacances,
mon petit tourneau seul aujourd'hui.
Je t'ai encore amené des points hier.
Non, mais tu rigoles. Rien que ton rictus, ça m'énerve déjà.
C'est dingue, j'ai imité Gilbert pour te donner un point hier.
Ah, je suis pas suffisamment
rancunier et je suis
Ah non, alors là, si j'ai de localité, c'est que je suis pas rancunier.
Fous-moi quoi.
Mais il n'oublie jamais.
J'oublie pas, mais je ne suis pas rancunier.
Manu, tu as fait une réflexion il y a 2 semaines et tu lui en tiens encore rigueur.
Il me rappelle même des rancunier. Trucs qui s'est passé il y a 6 mois,
c'est...
tu vois.
Non, mais en fait, la réflexion il y a 15 jours, c'est qu'elle m'a touché.
Elle m'a touché.
Donc,
et puis,
ce qui me touche encore plus, c'est que mon père qui écoute et qui aime bien Manu.
Ça l'a touché aussi.
Comment ça se fait, Manu? T'es tendu avec Manu en ce moment? Alors rien que ça, déjà. Oh là, franchement, ça m'a contrarié.
Ça va mieux.
On embrasse Jean-Pierre.
On embrasse.
Le quiz tout à l'heure. Tu travailles pas en pensant à moi, non?
Vous pouvez vous inscrire en envoyant top au 732-16 pour gagner une semaine dans une résidence Lagrange. Arsenal, on y va.
Ça s'appelle du muscle.
RMC, Rotel sans flamme.
Le ring des supporters.
Alors ce soir, dans un match en retard, le champion Manchester City sera en déplacement à Brighton. L'occasion pour nous de revenir sur ce dénouement en première ligue et surtout sur l'effondrement d'Arsenal. Leader, une bonne partie de la saison, les Gunners ont explosé ces 2 derniers mois. 2 victoires seulement en championnat sur les 8 derniers matchs. Alors est-ce que les joueurs doivent s'en vouloir parce qu'ils l'ont touché du doigt ce titre avant de s'effondrer, ou est-ce qu'au contraire faut le relativiser? Il y a une équipe monstrueuse en face et vu les saisons précédentes d'Arsenal, deuxième c'est déjà une perf, c'est une première depuis 7 saisons de finir deuxième du classement. 32-16,
c'est une première depuis 7 saisons. Ah, 7 saisons, le chiffre.
Max nous rejoint pour monter sur le ring des supporters. Jérôme,
salut Max.
Salut.
Salut les gars, bonsoir.
Bienvenue Max. Bon alors, qu'est-ce que tu penses d'Arsenal?
Il y a de quoi s'en vouloir?
Ravi d'être avec vous. Alors Jean-Louis, le vocabulaire, il est quand même bien sensationnaliste. Je te félicite pour l'écriture. Effondrement, explosion.
Ah, je te jure.
On est vraiment dans le...
Il n'y a pas eu d'effondrement là depuis 2 mois?
Oh là là, Jean-Louis, t'es collé au plafond là.
Mais c'est quoi? Non mais alors, comment tu qualifies 2 victoires en 8 matchs?
Non, je qualifie d'un moment, un coup de mou, voilà. C'est
un coup de mou?
Ça arrive. Mais comme ça arrive forcément pour une équipe comme ça arrive forcément pour une équipe qui n'était pas programmée pour le titre, pour une équipe qui est jeune, pour une équipe qui est encore inexpérimentée quand il s'agit d'aller chercher des titres. Voilà.
Ah là, tu m'expliques pourquoi il y a eu effondrement, mais il y a eu effondrement.
Bah, moi, je suis pas d'accord pour dire que c'est un effondrement. Je suis d'accord pour dire qu'il y a quelque chose qui devait arriver à un moment et c'est arrivé. C'est un coup de mou. Ça arrive au mauvais moment. Et de toute façon, que ça arrive avant ou pas, de toute façon, c'est des points que tu perds. C'est des points que forcément, tu devais perdre à un
moment. Mais pourquoi tu devais perdre à un moment? On a vu des équipes, Leicester, par exemple, quand ils sont champions, ils ont pas le fameux coup de mou alors qu'ils sont pas programmés pour ça.
Alors, Leicester, déjà, quand ils sont champions, justement, là, Arsenal, cette année-là, a eu un coup de mou. Parce que c'est cette année-là qu'Arsenal doit aller chercher.
Mais moi, je te parle de l'équipe surprise. Il y a des équipes surprises qui finissent champions.
Alors, sujet, là,
Leicester, tu peux pas prendre Leicester en exemple comme si c'était une norme. Leicester, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est
Mais même
dans l'histoire, il y a des équipes qui finissent championnes.
Max, je vais te donner un argument. Leicester, ils ont été champions dans une année où tous les gros ont été défaillants. Cette année, t'as Manchester City qui fait une saison encore incroyable.
Donc voilà, donc c'est juste pour terminer, voilà. Je voulais dire, Jean-Louis.
Mais non, mais City, t'avais quand même le destin entre tes mains. Que tu perdes le match contre City, ok, mais t'as perdu plein d'autres points, d'autres endroits.
Mais c'est normal, Jean-Louis. Quand t'as une équipe qui est aussi jeune, quand je te le répète encore une fois, avec beaucoup de jeunes joueurs, quand t'as une équipe, on a eu des blessés pendant la saison, où Arteta a peu fait tourner à cause de ça, où t'as eu forcément de la fatigue à un moment, où t'as pas été habitué pour tous ces joueurs à devoir performer chaque week-end, avec en plus à l'époque on était encore en Ligue Europa, etc., à devoir gérer tout ça, à devoir gérer la médiatisation, le stress, la pression de devoir aller chercher un titre. Regarde, en tennis c'est pareil, t'as toujours cette peur de gagner, mais forcément quand t'es jeune et que t'es jamais arrivé dans cette position-là à ce moment-là de la saison, ben oui, forcément t'as eu un peu peur de la gagner, mais c'est aussi que, encore une fois, quand t'es face à City et quand tu prends Arsenal, parce que il faut pas analyser les choses juste sur les 2-3 derniers mois, c'est sur toute une saison, c'est même sur la globalité du processus d'Arsenal depuis plusieurs saisons. Arsenal, c'est un club qui était en reconstruction. Arsenal, c'est un club qui aurait donné Arsenal champion à la fin de la saison.
Il a été Jean-Louis.
Non, mais c'est pas moi qui dois faire le débat, donc il y a pas de souci.
Je vais venir. Pas à ton secours parce que tu l'as explosé là, Jean-Louis. Véritablement. Il est en train de se balancer là.
Oui, il a implosé d'ailleurs.
Mais moi, je regarde le. Bon, certes, ils ont un match de retard, mais je regarde la différence au classement. C'est 7 points. 7 points. C'est-à-dire les deux matchs, les deux confrontations directes. C'est les deux confrontations directes.
Pas du tout.
Où effectivement, Max a raison, parce qu'entre un club qui joue les premiers rôles depuis, et puis qui a des moyens financiers depuis des années, et un club en reconstruction, sur les deux rencontres décisives dans cette. Dans l'attribution de ce trophée de champion, et City a été supérieur à
mais Arsenal. Ouais, non, mais il y a autre chose. Il n'y a aucun doute là-dessus. Non, mais s'il n'y avait eu que ces deux matchs, je vous donne raison, il n'y a pas de souci. Non, mais il y a tous ces points égarés avant.
Jean-Louis, non, il y a autre chose. Max, par rapport à tout ce qu'il a dit, je suis complètement d'accord. Personne n'aurait prédit justement qu'Arsenal aurait été
dans cette position. Non, c'est vrai.
Mais là où je veux en venir, c'est que l'argument, si tu regardes tous les matchs d'Arsenal, c'est ce que je fais moi depuis le début de saison, je peux te dire que. Oui, on peut parler de là, ils ont failli sous la pression, ce qui n'est pas vrai. C'est l'équipe la plus jeune d'Angleterre. Il y a 2 ans encore, on se demandait s'ils allaient pas jouer la relégation. Donc, en l'espace de 2 ans, on les voit peut-être être champion d'Angleterre. Moi, je te dis simplement une chose. Tu peux pas lutter avec City, hormis la qualité de jeu de City, par rapport à l'effectif. Guardiola, depuis plusieurs mois, il fait un turnover match après match sur la moitié de son effectif. Ouais. Là,
ce qu'il faisait pas avant.
Mais regarde les matchs d'Arsenal sur les 2 derniers mois. Ils sont cramés, les mecs, physiquement et mentalement. Cramés. T'as des joueurs qui sont à 60 matchs déjà. Ils sont cramés, les gars.
Après, il a recruté un peu au mois de janvier.
Il a recruté 2 joueurs, dont un qui a été effectif, c'est Trossard.
Voilà. Trossard qui était à Brighton, c'est
ça. Il perd 2 joueurs super importants pendant longtemps, qui est Gabriel Jesus, même si Nketiah a été bon pendant son absence. Mais surtout Saliba, qui est. C'est pas une coïncidence. Ouais. Ils ont que 2 défenseurs centraux de calibre pour toute la saison. Là où City, rien que dans cette position-là, ils en ont 4 voire 5.
Non, mais moi, je te rejoins, Manu. Après, là, vous tombez sur Jean-Louis, mais l'analyse de la saison.
C'est rien, Jean-Louis.
C'est vrai. Non, mais sur les 8 derniers matchs, c'est vrai qu'il y a un coup de mou. Et on
d'ailleurs,
a senti.
Tapis, il avait les verres. Moi, je discuterais football.
On a senti le coup de mou.
Non, mais donnez des arguments, vous acharnez sur moi. Marrant 2 secondes, mais.
Mais moi, je vais dans ton sens. je vais dans ton
sens. Non, mais il n'y a pas de souci. Je pense aux gens qui nous écoutent. Deux, trois vannes sur moi, c'est marrant, mais à un moment donné des arguments pour les gens qui
Je vais dans ton sens sur le fait que cette équipe, elle est jeune. Elle est jeune, mais n'empêche que tout au long de la saison, ils ont lutté pour être. Ils étaient devant.
Et peut-être qu'ils ont su performer aussi à un moment donné.
Je ne sais pas s'ils ont su performer. Ils ont mérité d'être là-haut. Après, je le sais parce que je l'ai vécu aussi. Quand tu es le chassé pendant autant de journées, c'est psychologiquement que c'est fatigant.
Face à un Nog qui a l'expérience
en plus, du très haut niveau. Donc ils sont pas complètement bêtes. Ils regardent les matchs de City. Ils se sont dit, oh là là, on a peut-être 7 points d'avance parce qu'au bout d'un moment, c'est 7-8 points d'avance sur eux.
C'est qu'un match
de
plus.
Mais n'empêche qu'il y a un match de plus. Et puis il y a la confrontation. Et puis il y a l'Europa League où je pense que Arsenal et Arteta en avaient fait aussi une priorité et ils prennent une claque contre le Sporting. Donc la première claque est arrivée là. Et après l'élimination, on a senti que dans le jeu, c'était différent, que les mecs étaient un peu fatigués. Et oui, ils sont rentrés dans le rang sur les dernières journées. Là, pour aller dans le sens de Jean-Louis. Donc, ils se sont un peu sabordés tout seuls sur les dernières journées.
Des regrets, oui. Mais de là, sans vouloir, non.
Non,
ils ont fait une superbe saison.
Oui, c'est pas très loin alors.
Mais non.
Si t'as des regrets à avoir, c'est que tu peux t'en vouloir.
Mais parce qu'à un moment donné, tu étais leader pendant X mois. Donc, tu peux avoir des regrets. Mais de là, t'en vouloir. Mais non, la question, c'est est-ce qu'ils peuvent s'en vouloir.
Quand tu feras le bilan froidement, évidemment. Ils n'ont pas été deuxième depuis 7 ans, ce que je disais tout à l'heure.
Mais le bilan, il est tout simple. Jean-Louis, et City est juste meilleur, basta.
Mais
c'est
est-ce
tout.
Que Manu, moi, tu connais mieux que nous le championnat anglais. Est-ce que tu penses qu'avec cet effectif-là, ils soient arrivés à maturité et qu'il va falloir peut-être changer, améliorer encore les choses.
Il faut 5-6 joueurs de plus pour l'année prochaine.
Parce que t'as quand même des équipes qui ont sous-performé cette année en Angleterre, à commencer par Liverpool, Manchester United, et tout
Chelsea.
Ça. Ils seront certainement au rendez-vous l'année prochaine. Donc ça va être, comme disait Jean-Louis, c'était peut-être l'année ou jamais pour aller jusqu'au bout.
Mais t'avais City. Voilà.
Oui, mais moi je dis pas qu'ils doivent battre City. Je dis pas qu'ils sont, c'est une meilleure équipe que City. Mais City, c'est que deux matchs. Et encore une fois, ils n'ont gagné que 2 sur les 8 derniers matchs. Donc, ils ont laissé filer des points contre d'autres équipes que Manchester City. C'est là où j'ai qu'ils peuvent s'en vouloir.
Non,
c'est tout.
Ils peuvent pas s'en vouloir parce que là, je reviens sur mes arguments.
Ils ont été conditionnés psychologiquement à dire il y a une équipe
mais
que tout le monde veut, qui va revenir sur nous. Ils s'y sont pas vus.
Quand je regarde les compositions de Guardiola, match après match, quand je regarde les compositions d'Arteta, c'est toujours le même 11 du côté d'Arteta.
On arrête Manu,
il n'y a pas de changement.
Avec un moins m'attaqué,
il n'y a pas de changement.
Merci Max d'être venu dans le rire des supporters.
Il balance son truc après. Envoyez la page pub.
Mais pas du tout, il y a un chrono. Si t'avais moins fait de blagues contre moi, t'aurais pu donner tes arguments.
Non, non, j'y peux rien. T'as vu
après,
les deux là, tu peux rien leur dire.
Oui, ce soir, c'est pas grave.
Ah, si, il y a cuir de bois.
C'est ça,
allez, à tout de suite.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h46 sur RMC, les 10 dernières minutes de Roten sans flamme du soir avec Manu Petit et Jean-Michel Larquet. C'est le quiz de Julien Cazard. Et oui, ils vont former une belle équipe. Moi, mon joker, il est là. Si je pense que j'en aurai
pas besoin. Vu le débat juste avant, je peux te dire que je vais t'aider.
Ouais, d'accord. Et puis deux auditeurs, bien sûr, un super cadeau à vous faire gagner. Allez, on y va.
Roten contre le reste du monde, saison 2.
Oui.
Alors, comme on est en semaine de cuir de bois,
ouais,
et qu'on est en semaine de record de passe D, on m'a demandé, Clément Turpin Varnier m'a demandé qu'il n'y ait pas de questions abusées cette semaine.
Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais
c'est une demande expressément.
Bon,
arrête.
Ça, il y a une semaine dans les résidences le Lagrange à gagner. Sandrine et Florian sont là pour jouer avec nous.
Julien, ils sont déjà énervés les deux là.
Salut les gars.
Florian.
T'inquiète. Alors bon, vous êtes prêts?
Sandrine, équipe Roten ou reste du monde?
Allez Sandrine. Je risque.
Non, c'est bon Sandrine, t'inquiète pas.
Allez, on y va.
Ça va le faire.
Florian avec le reste du monde.
Ça va le faire. Vous êtes prêts? Petite question flash.
Vas-y.
Tout le monde joue. En toute honnêteté, à part les finales NBA, je me lève pas la nuit.
Thomasson.
Bonne réponse.
Thomas, t'as pas vu son article?
Pas John Dahl, Adrien.
Il faut lire. Est-ce que tu arrives à comprendre ce que tu lis?
Mais pas ta gueule.
Tu te rappelles John Dahl, Thomas? Adrien Thomasson, le Thomasson. Pas confondre avec le Pomasson.
Et il joue où, Thomasson?
Il joue, à ton avis. C'était quand il était à Strasbourg qu'il regardait les matchs. Et maintenant, il doit avoir beaucoup de Giro.
Vous parlez tous en même temps. 1-0 pour le reste.
Les deux, là.
Non, mais respectez un peu.
Susceptible.
Suski
Bonne réponse de Manu Petit. Kiksetti, on enchaîne. Kiksetti, quel joueur d'Auxerre ne perd pas son temps après un massage?
Dès qu'il sort de la table de massage.
Dès qu'il ne perd pas son temps, dès qu'il a fini son massage.
Massengo.
Massengo, bonne réponse de Jérôme Rotten.
Il y en a partout.
Allez, je crois que t'es chaud, on est reparti sur un deuxième Kiksetti. Vous êtes là, les auditeurs?
Bien joué.
Sandrine, t'es avec nous?
Sandrine et Florian sont là.
Ouais. Ah, c'est pour ça, c'est pour ça. Quel joueur de Strasbourg a les nerfs en pelote?
Delaine.
Delaine, bonne réponse.
Delaine.
Il était pas suspect, ce Delaine de
Manu. Il était pas.
Jean-Louis, j'ai vu dans ton air.
Delaine.
Delaine et Thomas.
Il joue. Delaine, oui.
Bah, il joue, on vient de te dire.
Mais Manu, ça va pas faire enlever les suspicions que tu dises de où il joue à chaque fois.
C'est une catastrophe.
Il jouait où, Delaine,
avant le reste du monde?
Avant Strasbourg, il jouait où?
Il jouait avec Belote.
Non, mais il jouait où?
À Metz.
Voilà.
Voilà, merci.
De toute façon, celui qui lui a soufflé de laine, elle soufflait aussi le club.
Allez, que ce kick écoute. Que ce kick écoute.
Moi, j'ai gère l'émission.
Allez, que ce kick écoute. On va faire un kick à quoi dans le dos pour ce kick écoute.
Allez, Sandrine, allez.
Sandrine et Florian.
Pour l'AS Monaco, champion de France 2017 en numéro 5. Qui est numéro 5? Je vais vous aider. Il faisait la fête. Enfin, il aurait pu faire la fête. Qui c'est qui était?
Il faisait la fête.
Enfin, il faisait la fête chez un Brésilien, quoi.
Oui, voilà.
C'est ça. Ne partez pas sur un mec.
Il est parti dans un grand club.
Et ça commence par un F.
Bah, pas du tout.
Non, c'est pas lui.
Ah, même pas.
Ah, non, c'est l'autre.
Ah, c'est l'autre.
Ah, oui, d'accord.
Il jouait à côté de Camille Glick. Vous l'avez pas? Une fois. Jamerson, vous l'aviez pas. Reprenez votre sieste, il y a aucun problème. On comptait pas sur vous. On comptait pas sur vous. Quoi qu'il kiffe,
il prend un joker.
Il prend un joker.
Quoi? Il a un joker. Non, il joue pour les autres.
Il répond pas, toi. Il s'est foutu de ta gueule tout au long de l'émission.
On se moque pas des pandas.
Il est vénère, il devient
une espèce protégée. Les pandas sont une espèce protégée.
C'est vrai.
On ne peut pas de méchanceté sur Jean-Louis. Il y a la WWF qui va intervenir. Quoi qu'il kiffe, Jean-Louis.
Et tout le monde.
Montpellier, Nice, Lille.
Delors. Non, pas Delors.
Quoi qu'il kiffe.
C'est, non, c'est pas un joueur. Hein. C'est quoi qu'il kiffe.
Si.
C'est un point commun qu'ils ont eu cette année. Et c'est très rare. Hein. C'est les seuls d'ailleurs qui ont fait Montpellier, Nice et Lille. Ils ont fait quelque chose. Ils sont les seuls à avoir fait qui est pas glorieux. Hein.
Ils ont jamais été dans les places européennes.
Non.
Ils ont viré leur entraîneur.
Non.
Ils n'ont pas beaucoup gagné à domicile.
Non, ce sont.
Ils ont jamais gagné.
Je vous ai dit. C'est sur une défaite. Ils ont chacun une défaite peu glorieuse.
Défaite de plus de 4 buts d'écart.
Non. C'est le.
Ils ont perdu contre Angers.
Ils ont perdu contre Angers. Ce sont les seuls à avoir perdu contre Angers. Bonne réponse de Jérôme Rotten.
Ils ont tant de victoires que ça Angers.
Ah, ils en ont 3.
Ah, deux,
c'est
deux.
Chaud, papa! Ils ont bien fait de virer le coach et aller chercher un Australien. C'était une très bonne idée.
Mais non, c'est trois, ça.
C'est trois.
Oui, merde, c'est vrai.
Eux, ils ont du jeu.
Ouais. Ils ont pris du jeu, ouais. T'as compris, ils ont envoyé du jeu. Ils ont envoyé du jeu. Allez, question Mathieu Bonnemer, parce que là, je sens qu'il faut de la.
Ah, Mathieu, je reprends un joker.
C'est la question Mathieu Bonnemer.
Burger King. Bon, il prend un joker.
Un deuxième joker.
Ah oui, c'est ça.
Et le joker, c'est Daniel Riolo.
Ah. Impossible, il torture un communiste dans sa cave.
Bon, ben alors, c'est Jean-Louis qui va faire Daniel.
Il torture un communiste, il ne torture pas Marion Bartoli, contrairement à ce qui se dit dans les, les coursives des RMC. Tout ça, c'est réglé, ne vous inquiétez pas. Ils ont fait ça, ils ont fait un set l'un contre l'autre, tout va bien. Question Mathieu Bonnemer. Quel plat alsacien
strudel
à base de pâte brisée, crème fraîche,
flammekuche.
Eh oui, mais ça n'est pas le nom alsacien. Tarte flambée. Bonne réponse de Jean-Michel Larquet. La tarte flambée. Le flammekuche, c'est un truc qu'on dit quand on n'est pas alsacien.
Ouais,
ça se dit la tarte flambée. C'est dommage, hein, c'était un bon joker. Ouais.
Ah, je suis dégoûté. Donc,
question Almeida, tu vas te refaire.
L'autre, il triche comme jamais.
Question Almeida.
Focaccia, tarte flambée, c'est
pas. Non, parce que quand on gagne, on triche.
Je vais chier sur ton scooter.
Non, mais Jean-Michel, il triche, c'est sûr.
On ne parle pas sur les jingles.
Je vais chier sur ton scooter aussi, à toi.
Alors, déjà, il faudrait que tu me rattrapes. T'arrives pas à me rattraper avec ton Indian.
Avec ton petit scooter, là.
Bon, il y a 3-2 pour le reste du monde.
Quel Strasbourgeois, c'est un Kiksetti, genre. Regarde-moi dans les yeux, tu es le seul.
Pourquoi Strasbourg aujourd'hui?
Parce que en ce moment ça joue le maintien. Strasbourg, Auxerre.
T'as mangé avec Gilbert toute la journée ou quoi?
Oui, c'est pas possible.
Il t'a retourné le cerveau.
T'as mangé du quinoa et des graines. Quel Strasbourgeois ne met jamais les commentaires quand il regarde un match?
Quel Strasbourgeois
Tais-toi,
ne met jamais les commentaires.
Ouais. Cac.
il éteint pour plus rien entendre quand il regarde un match. Une fois.
De, un joueur de Strasbourg.
Oui.
Non, deux fois.
Sanson. Bonne réponse de Jérôme Rotel.
Je l'ai entendu d'ici là. Ouais, attention à Max au standard.
Ah non, j'ai pas entendu.
3-3. Ah,
je l'ai entendu.
Allez, qui c'est qui donc?
Et moi, je l'ai entendu à Saint-Pierre-sur-Nivelle.
Si on l'entend à Saint-Pierre-sur-Nivelle, c'est que c'est tendu.
Oh le mec.
Je sais pas, j'ai le casque. Moi, j'entends pas ce qu'il
dit. T'as pas honte. T'es tellement crédible.
Attention.
Attention, il y a 3-3. Attention, s'il vous plaît. 3-3.
Il a accepté le point?
Stop.
Question à deux points.
Deux questions.
Question à deux points.
À deux points.
Question à deux points. Vous êtes prêts ou pas?
Rien, il y a trois points.
Il y a deux questions.
Ouais, il est bête. Vous m'emmerdez, lui, je te jure. Très bien, déconner.
Répète, arrête de répéter les conneries d'Antoine Varnier.
Non, mais question à un point, et puis voilà.
Ok, question à un point. Et tu te calmes, toi, je fais ce que je veux. Question à un point, tiens, j'ai décidé.
Ah oui, d'accord.
Qui caouège ici? Istres, Glasgow, Monaco,
Perso,
Marseille.
Rodriguez.
Bonne réponse de Jérôme Rotten, attention, c'est chaud.
4-3 pour Jérôme. Peut-être remettre le casque, Manu.
Hein?
Non. Question arrête. À deux points.
À deux peut-être, points, mais.
Peut-être qu'il devrait l'enlever.
Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous allez chacun votre tour.
Donc c'est une balle de match.
Non, enlevez vos casques. Enlevez vos casques.
J'en ai pas.
On va faire un duel Jérôme Rotten, Manu Petit. Duel Jérôme Rotten, Manu Petit. Vous allez chacun votre tour me donner le nom d'une équipe, d'un club qui a gagné au moins deux fois la Coupe de France.
Hein? De quoi?
Vous allez chacun votre tour, Manu et Jérôme, me donner. Un club qui a gagné au moins deux fois la Coupe de France. Jérôme.
Paris.
Paris, c'est bon. Manu.
Monaco,
c'est bon. Jérôme.
Marseille.
C'est bon.
Il n'y a pas Jean-Michel.
Manu. Nantes. Oh. Nantes, c'est bon.
Bordeaux.
C'est bon.
Reims,
c'est bon. C'est Just.
Lille,
c'est bon.
Saint-Etienne,
c'est bon. Jérôme. Une fois.
Lyon,
c'est bon.
Ça a été dit.
Lyon, ça n'a pas été dit.
Attends, ça n'a
pas été dit.
Ok, quel stress.
À moi ?
Oui.
Strasbourg,
c'est bon.
Je voulais la cuillère de moi.
À toi.
Putain, j'ai pas noté ce qu'on a
dit. Non, ça y est, pas ça. Une fois.
Moi, je tiens pas.
Jérôme, deux fois.
Jérôme. Guingamp,
c'est bon. À toi, Manu.
Waouh.
Ça a été dit, Monaco ?
Oui, c'est toi qui l'as dit.
Ah, bah, vas-y, dis-le.
Manu, une fois.
Manu, deux fois.
Nice, c'est bon. Jérôme.
Oh, il n'en a plus, je crois.
Jérôme, une fois.
Ah oui, Nice, à l'époque.
Jérôme, ouais, allez, deux fois.
Attends,
Jérôme, quoi, trois fois.
Non, Montpellier.
C'est bon. À toi, Manu.
Toulouse.
C'est bon. Non, pas du tout, c'est pas bon. Aïe, Angers, il y a
Auxerre,
pas.
Ils ont dit.
Ça n'a pas été dit Auxerre.
Bah, j'ai gagné.
Ouais. Fini, victoire du reste du monde. Et la cuillère de bois est toujours en cours. Pour Jérôme, rendez-vous demain pour voir s'il enchaîne une quatrième défaite de suite. En attendant, bravo à Florian qui remporte la semaine de vacances.
Roten contre le reste du monde sur RMC avec Lagrange Vacances. Mer, montagne, campagne. Trouvez votre résidence 3 ou 4 étoiles pour les vacances.
Dans une seconde génération after avec Nico Jamin.
Allez,
à demain Jérôme pour la cuillère de bois.
On se retrouve demain, bien sûr. Roten sans flamme s'arrête jamais de la semaine. On donne rendez-vous demain à partir de 18h. Bonne soirée à tous. Profitez bien des RMC, bien sûr. Et nous, demain, à 18h, en pleine forme, on refait le football. Bisous à tous, à demain.
RMC, jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.